Oui, bonsoir François. Je t'ai envoyé une demande pour parler. Je ne sais pas si tu l'as eue ou pas. Je la réitère. Ah, ça y est, super. Voilà, donc c'était juste pour tester. Est-ce que tu peux décocher ton micro pour voir si je t'entends bien, s'il te plaît?
Me voilà,
Eh,
salut.
salut. Ah, super, ça marche, génial. Parfait.
Bon, t'as vu, je suis pas doué, hein.
Non, arrête. Si, 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 si.
Est-ce que le son te convient ou est-ce qu'il y a besoin que je mette un écouteur ou
Non, c'est
un micro?
parfait. Non, c'est parfait. Par contre, donc t'es sur ordinateur. Donc, si t'es sur ordinateur, du coup, tu peux prendre la parole comme tu veux parce que, en fait, en réalité, moi, je ferai attention dans les échanges. Mais sur ordinateur, t'as pas accès à lever la main, tu vois, à ce que t'as sur le téléphone. Mais de toute façon, ça
D'accord.
sera dans la conversation. Je distribuerai, pardon, le tour de parole. Voilà.
Parfait, je serai à
Et
l'écoute.
ben voilà. Et ben, on se retrouve dans 10 minutes approximativement, le temps que tout le monde arrive. Si ça te va. Voilà.
Impeccable.
Super.
Allez, à tout de
À tout de
suite.
suite. Merci. Alors bonsoir à vous autres. J'ai ouvert pour tester le son et bien assurer la présence de François. Donc là, je vous ai mis pas mal de documentation dans la boucle. On commence d'ici, là il est 25, on devait commencer à 30. On commence à 35, histoire d'accueillir toutes les personnes qui sont désireuses d'être là ce soir. Voilà, je vous remercie. Virginie, bonjour Souvrenix, bonjour Christine, bonjour Milo, bonjour Conrad, bonjour Maximilien. Et je vous dis à dans 10 minutes. Voilà, c'était vraiment un test son. Merci. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir François qui s'est déjà connecté il y a pas une dizaine de minutes pour faire un test son. Bonsoir aux débatteurs Christian, Conrad, Christouf. Et bonsoir à mon coach Christian. On va essayer de commencer pour ne pas perdre de temps et sur l'horaire. Alors, avant toute chose, je voulais vous dire que tenant compte de ce que vous m'aviez dit précédemment lors d'autres spaces, je vous ai mis dans la bulle un certain nombre de textes qui peuvent vous donner de la littérature si vous avez nécessité à vous former là-dessus. Vous avez la loi relative à l'élection des représentants au Parlement européen. Corrélativement, vous avez une décision du Conseil constitutionnel, c'est sur les temps de présence médiatique, ce qui nous intéresse dans la mesure où nous sommes sur une plateforme de réseau social. Je vous ai mis le rapport sur les projets du Parlement européen qui tend à la révision des traités, puis c'est ce qui est, c'est à la volonté. Ensuite, je vous ai mis en anglais, en fait, c'est toutes les séances plénières du Parlement européen. Ah, François a sauté. On va le réinviter à parler. Du Parlement européen, pour que vous puissiez scroller et chercher matière si vous avez une volonté à comprendre, puisque je rappelle que ce soir, la thématique est, excusez-moi, enjeux et stratégies de l'élection européenne, et qu'on en parle souvent, d'ailleurs quasiment tout le temps, de ces élections européennes, mais je pense que c'est important que vous ayez le cadre et à minima les textes qui vont encadrer ça. À l'intérieur de notre pays et en Europe. Je vais juste envoyer un message à François parce que peut-être qu'il n'arrive plus à se connecter. Donc François, si tu m'entends, en fait, il faudrait que tu sortes du space et que tu reviennes parce que je pense que tu bugs. Voilà, je ne sais pas si tu m'as entendu. En plus, tu es sur ordi. Sinon, on va essayer de faire ça. Parce que les places de co-hôte sont plus stables que les autres. Donc, je vous disais, je vous ai mis en tout dernier aussi l'accès à Opinion Way, qui est un organisme. Ouais, il y a un problème de connexion. Alors, hop, j'en ai juste pour une seconde. Hop, j'écris un texto en même temps, vous m'excusez. Tac. Je vais le supprimer du space pour qu'il puisse revenir. Voilà. Donc il va revenir d'ici 2 minutes. Je vous ai mis OpinionWay, qui est un organisme de sondage qui est assez souvent utilisé. Je vous ai facilité la tâche en vous mettant 2 sondages qui pourraient vous intéresser. Tac, il est là. Super. Un premier sondage, en fait, qui va concerner l'Europe, les intentions de vote, c'est commandé par des radios, ça peut être commandé par tout un tas d'organismes. C'est vraiment juste à titre informatif que vous puissiez lire des choses qui peuvent faire sens avec ce que vous entendez sur les spaces. Et ensuite, je vous ai mis un deuxième sondage qui, là, considère les intentions de vote. Voilà. Et ce que veulent les Français, par ordre de préférence. L'un ou l'autre, j'ai plus dans la tête. Mais je vous ai mis la racine Opinion Way, et de cette manière-là, vous pouvez aller consulter. Voilà. Ah, on me dit qu'on ne voit rien dans la bulle. Oh. Alors, il doit y avoir un bug entre mon ordinateur et le téléphone. L'espace bug beaucoup. Alors, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il a réussi à être là? On a beaucoup de bugs sur l'espace. Je coupe 2 minutes le temps de trouver ma solution, j'arrive. François, tu nous entends?
Je ne suis pas sûr que je vais rester sur l'ordinateur, je vais peut-être basculer sur le téléphone si les problèmes techniques se reproduisent, excusez-moi.
Non, mais il n'y a pas de problème. J'étais en train de faire l'introduction du space, du coup, tu n'as rien entendu en fait.
Non, mais j'ai totalement
Ouais.
confiance.
Merci beaucoup. Donc voilà, j'étais en train d'expliquer en fait que j'avais positionné un certain nombre de textes dans la bulle du space pour encadrer en fait le débat qu'on a ce soir, enjeux et stratégie de l'élection européenne. Alors, du coup, par contre, ce qu'il faut que tu fasses là, c'est que tu cliques sur ton micro pour le fermer, parce que sinon, ça fait de l'écho et voilà, ça fait un retour pour les gens dans le space. Déjà, merci d'être là, François. On est ravis que tu viennes dans notre space et moi tout particulièrement bien sûr. Tout le monde sait pourquoi, mais surtout parce qu'on a envie en fait dans cette émission politique, l'enjeu, l'ambition avec mon co-hôte Christian, Conrad, Philippe, Christouf et encore d'autres personnes mais qui ne sont pas présentes ce soir, qui sont les débatteurs fixes, de permettre aux personnes qui sont sur les réseaux sociaux d'accéder à des débats sur le fond de thématiques qui les intéressent. En ce moment, énormément, en effet, les questions européennes, mais aussi les questions françaises, bien entendu, et les questions de souveraineté. Et notre but, c'est vraiment d'encadrer un débat de manière à ce qu'il n'y ait pas de fuite de discussion, comme on peut souvent le constater dans les spaces. Donc, on est jeune, c'est notre troisième émission. On a reçu Georges Kouzmanovitch, qui nous a dit que du bien de toi la semaine dernière. Et donc, la semaine prochaine, on reçoit Philippe Murer. Et aujourd'hui, on te reçoit toi. On est ravis sur cette thématique. Et ce que je vais expliquer là, c'est juste les règles du space. Et ensuite, je te céderai la parole pour ton mot d'introduction, ta présentation. Tu le gères comme tu veux. Pour toutes celles et ceux qui sont déjà connectés, vous connaissez déjà, un, les règles dans mes spaces. Pas de discrimination, pas d'illégalité, pas d'attaque ad hominem. De toute façon, vous serez sortis par moi, Christian ou Baptiste qui arrive après son travail aux alentours de 21h. Ensuite, sachez bien que les règles pour le space politique sont toujours les mêmes. On a une première partie, une bonne heure, voire un peu plus, où on va débattre avec François et des débatteurs fixes des enjeux et stratégies de l'élection européenne. On ne sortira pas de cette thématique. Les débatteurs sont minutés, sauf à ce qu'ils fassent une démonstration. Il y a la possibilité pour les auditeurs d'intervenir en posant une question. Vous pouvez soit poser une question dans la bulle, soit m'envoyer un DM à moi ou à Christian, soit vous pouvez attendre la fin de la première heure et demie quasiment de débat, pour la bonne et simple raison qu'on souhaite que d'abord le fond des dossiers soit exposé avant que des questions soient mises sur la table. Vous pourrez faire une question qui ne devra pas sortir du sujet et qui ne devra pas être une démonstration. Je sais que ça peut paraître dur comme règle, mais on est obligé de faire de la modération stricte pour le bien-être des débats et que les échanges soient cordiaux. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Sinon, c'est assez open, vous le savez, donc n'hésitez pas à m'écrire s'il y a quoi que ce soit comme souci. J'ai déjà eu des questions hier et avant-hier pour la venue de François. Je les poserai en deuxième partie de soirée pour les personnes qui me l'ont demandé. Et maintenant, je vais céder la parole à François. À toi.
Ouais, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Bah, c'est un plaisir d'être de vous retrouver. J'avoue que je suis pas un familier de ce format. J'ai un peu découvert ça en vous écoutant les uns et les autres, et j'ai pu voir la qualité des échanges. Donc ça me fait plaisir de venir échanger sur les questions européennes avec vous, parce que je crois que l'enjeu va être central, et c'est peut-être ça ce qui va être le cœur de mon propos. Je crois qu'on va avoir une élection européenne qui va être à nul autre pareille, dont les enjeux vont être très spécifiques au regard du calendrier et de la situation géopolitique, mais aussi de la situation de politique intérieure. Peut-être vous dire un mot quand même pour vous dire d'où je parle. D'où je parle, j'ai été engagé moi politiquement pendant de longues années. J'ai fait une dizaine d'années où mon investissement a été très fort dans des courants dits républicains et de la tradition du mouvement ouvrier. J'ai porté notamment dans ce qui a été enfin, la France insoumise sur ses fonds baptismaux, je crois, en portant la ligne qui était dite, je trouve que c'est un petit peu restrictif, mais qui était dite populiste à l'époque, qui était une ligne essentiellement populaire, beaucoup plus que populiste. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et puis, ensuite, j'ai eu quelques autres expériences, mais j'ai eu des désaccords stratégiques et politiques. Ça fait partie de la vie. Les choses se sont pas toujours bien terminées, mais ça, c'est pas très important. Mais ce qui m'importe aujourd'hui, c'est voir comment faire face à une situation qui est bloquée, et notamment sur les questions et les enjeux démocratiques. Et c'est là-dessus que j'ai travaillé, moi, depuis quelques années, à la fois au niveau de la politique européenne, au niveau des questions démocratiques dans notre pays, en réfléchissant à ça avec quelques amis dont je vous parlerai, et notamment mon ami Charlotte Girard, avec qui on a eu beaucoup l'occasion ces dernières années de faire un petit peu de jus de cervelle commun. Voilà un petit peu pour cette peut-être rapide présentation. Et puis, peut-être venir sur le cœur du sujet. Parce que je trouve que la manière dont le sujet est posé est très intéressant. Enjeux et stratégie. Et je voudrais commencer peut-être par les enjeux. Jusqu'ici, on a quand même tous en tête que l'élection européenne n'était pas un enjeu en soi. Elle l'est progressivement devenue. Elle est devenue un petit peu plus en 2019, lors de la dernière élection européenne, mais qui était une élection particulière puisqu'en sortie de Covid. Mais jusqu'avant, ce n'était jamais plutôt qu'une élection intermédiaire dans un calendrier électoral national. Or, cette fois, il faut avoir en tête qu'il n'y a pas d'élection intermédiaire, dans ce quinquennat, sinon les municipales qui interviendront un an avant le prochain scrutin présidentiel. Si je me réfère toujours au scrutin présidentiel, c'est parce que je crois qu'il est admis et acquis maintenant que l'élection présidentielle est la seule élection structurante de la vie politique. Sauf qu'à partir du moment où la seule élection intermédiaire qui y aura dans la séquence est l'élection européenne, de fait, celle-ci va être l'élection qui va définir le paysage et le paysage d'entrée dans l'élection présidentielle à venir. Elle a donc une importance beaucoup plus importante qu'on a pu le connaître par le passé. Donc c'est plus aujourd'hui les élections départementales et régionales qui vont peser, non seulement parce qu'elles n'ont pas lieu, mais parce qu'en plus l'élection départementale et régionale depuis la réforme territoriale qui a eu lieu sous François Hollande, elles n'ont plus de sens et les gens sont un petit peu perdus dans ce micmac territorial. Donc c'est l'élection européenne qui va définir la suite. Et la deuxième raison pour laquelle l'enjeu européen va être particulièrement fort au mois de juin, c'est que, à mon sens, il y a une double rupture qui s'est opérée ces derniers mois, qui fait que la question européenne et la volonté pour ceux qui prônent une Europe fédérale de faire un pas en avant va être plus importante que jamais. Cette double rupture, c'est d'abord la crise du Covid et deuxièmement la question ukrainienne. Et tout ça se fait sur un substrat qui est la crise démocratique profonde que nous connaissons à l'échelle de l'Union européenne. Alors peut-être que je vais commencer par ça, par cette crise démocratique. Je vous le fais vite et en résumé parce que je sais que vous êtes tous des observateurs avertis de la vie politique. Pendant une quarantaine d'années, vous savez tous qu'on a eu, en France comme ailleurs dans les autres pays, une alternance en gros gauche-droite pour le pouvoir, d'un côté ce qu'on appelait la social-démocratie, de l'autre la démocratie chrétienne, la gauche et la droite. Tout ça, à un moment donné, a commencé à se nécroser. Les gens se sont rendus compte, notamment à l'occasion du traité constitutionnel européen de 2005, que tout ça c'était finalement du pareil au même, et donc la solution de système qui a été mise en place par les Bruxellois notamment, mais plus largement par tous ceux qui étaient les tenants du pouvoir, ça a été d'aller vers les grandes coalitions. Les grandes coalitions sur le modèle de la GroKo allemande, c'est-à-dire une grande coalition, c'est l'alliance de la gauche et de la droite, de la social-démocratie et de la démocratie chrétienne, au départ de la CDU-CSU en Allemagne et du SPD. Si je dis ça, c'est que ce tournant de 2010 n'est absolument pas anodin. Je vous invite à réfléchir au fait que en 2014, c'est-à-dire hier, avant-hier disons, en 2014, la moitié des pays de l'Union européenne avaient un gouvernement de type grande coalition. Autrement dit, le bipartisme tel que nous le connaissions était déjà sur la fin de sa ligne de vie et il était remplacé par un effet de système qui était les grandes coalitions. Mais les grandes coalitions elles-mêmes ont été un pis-aller insuffisant. Elles n'ont pas tenu et elles ont tenu quoi? 2-3 ans et à partir de 2016-2017, on a vu s'opérer des blocages électoraux dans les urnes. Blocages électoraux qui ont fait que on allait à l'élection et on sortait de cette élection sans majorité aucune, sans grosse majorité, mais même sans majorité qui pouvait se constituer. Alors on est arrivé dans des situations ubuesques où malgré les changements électoraux qui pouvaient y avoir, comme en Italie, eh bien on devait retourner deux fois, trois fois, quatre fois aux urnes en deux ou trois ans. On l'a connu également en Espagne et dans beaucoup de pays. Tout ça a amené à une situation qui est la situation que j'ai amenée, la situation de la démocratie minoritaire. Et là encore, c'est un phénomène structurel qui s'est imposé à l'échelle de l'Union européenne, puisque 16 des 28 pays de l'Union européenne début 2018 étaient dans une situation de démocratie minoritaire, c'est-à-dire avec un gouvernement et une coalition qui était minoritaire au sein de son propre parlement national. Il faut représenter ce que ça veut dire. Ça veut dire que le fait majoritaire tel que nous le connaissions, finalement, était passé par pertes et profits. Et la France, qui vient toujours un petit peu en décalé par rapport à ça, hein, c'est Macron qui nous a donné un temps de décalage en 2017, la France, finalement, elle s'est résolue à rejoindre le camp de la démocratie minoritaire, non pas en 2016, 2017, 2018, comme nombre d'autres pays au sein de l'Union européenne, mais s'y est résolu en 2022, après les législatives que nous allons connues. Voilà. Si je dis ça, c'est parce que je crois que c'est ça qui surplombe le tout et qui préside à l'ensemble des analyses de tous ceux qui s'engagent sur la scène européenne. Je crois que les gens ont vu ce qui se passait, mais les décideurs politiques l'ont vu aussi. Donc ils ont cherché à trouver des biais. Les gens qui croient en la souveraineté populaire comme moi disent le système a été bloqué en conscience par les citoyens parce qu'ils ne se retrouvaient plus dans les politiques telles qu'elles étaient proposées. Mais si vous vous placez, si vous vous décalez et vous vous mettez du côté des décideurs, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent on veut conserver le pouvoir. Donc comment faire pour s'affranchir de cet éparpillement, de cette démocratie minoritaire, puisqu'ils ont bien compris que même la démocratie minoritaire, ils peuvent bien s'y résoudre un moment, mais ça reste un état instable de l'exercice du pouvoir. Donc il va falloir faire à un moment donné autrement. Donc leur choix a été d'essayer de trouver une nouvelle solution. Et aujourd'hui, on commence à voir se dégager les solutions alternatives à la démocratie minoritaire. Ça nous amènerait sur un autre sujet de discussion, et peut-être aura-t-on l'occasion d'en parler à une autre occasion. Mais ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où cette analyse, celle que je viens de poser là, a été faite, notamment par Monsieur Macron, eh ben il a décidé qu'il fallait passer à autre chose. Et cette autre chose pour lui, c'est ce qu'il a annoncé dès 2016, quand il est entré en campagne. Ça a été son premier discours structurant une fois qu'il a été président de la République. Ça a été le discours aux ambassadeurs qui a été donné le 29 août 2017, qui est en général la feuille de route pour l'ensemble des ambassadeurs et de nos diplomates. C'est le discours qui a été prolongé ensuite par ce qu'on a appelé le discours de la Sorbonne le 26 septembre 2017. C'est le discours sur la souveraineté européenne. C'est-à-dire faire surplomber la souveraineté nationale, mais en réalité l'effacer par une chimérique, à mon sens, souveraineté européenne. Voilà le fond du débat. Et c'est sur ce substrat-là que les deux événements que j'ai évoqués tout à l'heure, d'abord la crise Covid, puis la guerre en Ukraine, se sont greffés pour définir ce qui va être présenté comme les nouveaux enjeux de l'élection européenne. La crise Covid, pourquoi? Parce qu'on a tous entendu au moment de la crise Covid que M. Macron et les siens venaient nous parler de souveraineté, essayer de reprendre à leur compte cette idée de souveraineté, mais finalement pour mieux la décaler et pour mieux la sortir du cadre national, du cadre où elle s'exprime le plus légitimement parce qu'elle est assise sur la souveraineté populaire, vers le cadre européen où en réalité elle devient une souveraineté négative qui ne s'exerce plus par le peuple mais qui s'exerce uniquement par la structure, par l'entité Union européenne elle-même et notamment la Commission. Et puis le deuxième point de bascule par rapport à cette élection européenne à venir, c'est la guerre en Ukraine, où on a vu, et ça rejoint ça les analyses de Monsieur Macron, qui avait une vision dès 2017 qu'il posait comme un monde qui allait devenir multipolaire, un espèce de trépied avec d'un côté la Chine, de l'autre côté les États-Unis et sur un troisième pied l'Union européenne, et qui pensait que chaque pays finalement allait devoir se raccrocher à l'un de ses pieds. Il n'avait pas compris que on était dans quelque chose qui est très différent, qui est sans doute un monde plutôt apolaire où les gens ne veulent plus être rattachés à un bloc ou à un autre, hein, je pense notamment par exemple aux Indiens, mais à nombre d'autres pays aussi, eh bien la guerre en Ukraine et la manière dont l'Union européenne a investi cette guerre en Ukraine a fait que et fait que l'élection européenne va être présentée, et je crois que c'est ça la grande nouveauté, comme une élection existentielle. Voilà, je crois que c'est le terme qui est à la mode, qui est employé sur les terrains de guerre, qu'on entend à propos de la Russie, qu'on entend à propos de l'Ukraine, qu'on entend à propos des États-Unis aujourd'hui. Ben, je crois que c'est ça qu'ils vont nous faire aujourd'hui. Ils vont vouloir nous présenter l'élection européenne comme une élection existentielle. Si vous vous souvenez bien, en 2019, on avait eu une espèce de dichotomie de l'espace grotesque qui avait été présentée. Il fallait se soumettre à deux camps. Il y avait une binarité extrême. D'un côté, il y avait les progressistes, c'est-à-dire tous ceux qui étaient progressistes devaient se rallier derrière l'étendard de Monsieur Macron, et ça avait fonctionné, puisqu'il avait fait un score fort confortable alors même que nous sortions du mouvement des Gilets jaunes. Et de l'autre côté, il y avait tous ceux qui étaient rangés au camp des nationalistes, des protectionnistes, des identitaires. Il y avait cette partition de l'espace. Ben, cette fois, ils vont rester sur cette stratégie de partition de l'espace, sauf que ça va être beaucoup plus violent au regard de ce que je viens d'exprimer. Ça va être d'un côté, il va y avoir les démocrates et les démocraties, et puis de l'autre, il y aura le camp des bellicistes, le camp de la guerre, le camp de l'autoritarisme, et même d'une certaine manière, le camp d'une cinquième colonne, hein, c'est un petit peu ce qu'exprimait Gabriel Attal lors de son discours de politique générale, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette phrase qu'il avait prononcée, il avait dit « on ne peut pas vouloir sortir de l'Europe, sauf à servir d'autres intérêts ». Un autre pays. Voilà. Donc voilà, je crois un petit peu les enjeux de l'élection présidentielle, la manière dont elle se présente. D'un point de vue du débat démocratique, on ne peut qu'être atterré parce que on va avoir sous les yeux et ce à quoi on va être confronté pendant de longues semaines, c'est-à-dire cette binarité extrême de la scène politique. Et pour autant, eh bien, il va bien falloir arriver à s'insérer dans ce discours et dans ce débat public pour faire valoir les vrais enjeux. Voilà, je m'arrête peut-être là sur cette première intervention sur les enjeux. Je laisse plein d'espace vide là-dedans, mais de manière à peut-être pouvoir mener la discussion comme vous le souhaitez.
Waouh, merci beaucoup. Ça fait beaucoup de bien parce que, comme l'a dit Christian en retweetant le space, bonsoir Baptiste, on a l'impression d'être dans le concret là d'un coup. On se prend un shoot de concret. Alors, je m'explique juste pourquoi. Après, je vais donner la parole au débatteur et je te remercie François. Pourquoi ? Parce que là, vous avez entendu des concepts, je pense que, et un historique. Important, mais pas excessif. On vous a pas noyé sous les informations. Et c'est là qu'on voit vraiment les hommes de terrain. Là, vous avez la réalité de concepts qui ont émaillé et qui ont fait que la situation allait ce qu'elle est aujourd'hui. Retenez bien élection existentielle, démocratie minoritaire, d'accord ? Ou encore mieux, souveraineté négative. Combien de fois je vous entends dans l'espace me dire « Lilou, je ne comprends pas l'Europe, ils nous volent tout, on veut rester en France, ils nous prennent notre souveraineté ». Oui, mais là vous avez une forme d'explication. Alors j'attends nos débatteurs, n'est-ce pas ? Mais là, moi personnellement, je suis 100% d'accord avec l'historique et aussi avec les concepts dont je n'ai jamais parlé jusqu'à présent parce que tout simplement, il faut être un peu aguerri pour pouvoir les mettre dans un discours et pour pouvoir vous le faire voir comme François vient de le faire. Et c'est ça que j'aime parce que vous avez besoin de concret, je l'entends parfaitement. Vous avez besoin qu'on vous explique ce qui se passe et aussi, in fine, et c'est ça que j'aimerais qu'on finisse par bien encore remarteler, qu'on vous explique pourquoi c'est important d'aller voter. Alors, j'espère qu'on le fera au cours du débat. Et vraiment là, mettez bien dans vos têtes, moi j'ai pris tout un tas de notes forcément, mais dans vos têtes, cette histoire de double rupture. On vous a cité la crise Covid, qui est le sujet de tas de space, mais on vous les a cités dans un angle particulier. On vous a cité la guerre en Ukraine, on en parlait vendredi avec l'accord bilatéral, vous savez que lundi, il rencontre encore d'autres pays. On vous a fait un historique sur ce qu'a pu prononcer Macron depuis qu'il est arrivé au pouvoir, vous me dites sans arrêt, c'était prévu, c'est dans un agenda. Mais l'agenda de qui, pour qui et pourquoi ? Là, vous avez vraiment un prisme qui vous permet de comprendre plein de choses. J'espère sincèrement que vous le voyez. Et j'espère aussi que vous avez noté cette question de savoir qui a bloqué le système, les citoyens ou finalement les députés, nos élus. Vraiment, c'est hyper important que vous refassiez dans votre tête ce que les informations que vient de nous prodiguer François, parce que vous avez un cheminement historique qui vous explique une situation et qui vous permet à vous de vous positionner et de voir pourquoi c'est hyper important d'aller voter, mais même en conscience de comprendre ce qu'est la souveraineté et pas juste un mot qu'on prend et qu'on met à droite et à gauche, comme j'arrête pas de l'entendre. Et surtout cette question aussi de crise démocratique qui viendra après. Donc merci beaucoup François. Je vais passer la parole à nos débatteurs qui sont Philippe, Christophe et Conrad ce soir. Et je vous laisse introduire comme vous le souhaitez ce que vous voulez dire à François directement. Et pour le reste, on m'a fait remarquer qu'en fait j'ai mis les documents dans le mauvais endroit. Ne vous inquiétez pas, je vais les mettre à un autre endroit, puis moi je réinterviendrai au fur et à mesure de la discussion. Merci François. Alors Philippe, à vous, bonsoir.
Oui, bonsoir Monsieur Coq, bonsoir à tous. Alors, certes, cette élection européenne va être importante. Elle va être importante parce qu'elle se passe dans un moment géopolitique très particulier, qui est un engrenage belliqueux en Ukraine. Et il est bien possible que ce soit le seul moyen de pouvoir exprimer le désaccord par rapport à ce danger absolu. Et puis, ce danger absolu de la guerre, mais le danger déjà là, ce n'est même plus un danger, c'est simplement une réalité de l'appauvrissement de notre pays et de l'ensemble de l'Union européenne d'ailleurs, par les sanctions envers la Russie, le fait d'avoir désormais une énergie plus chère, le fait d'avoir une désindustrialisation de plus en plus forte qui, avec les délocalisations vers les États-Unis, la Turquie, la Chine, etc. Alors, j'essaie de voir par rapport aux institutions européennes, et il se trouve que le Parlement européen a lui-même extrêmement peu de pouvoir. Le seul pouvoir qu'il ait réellement, c'est au moment de l'investiture de la Commission. Il peut en effet refuser la Commission au moment où il l'a. Après, quand la Commission est acceptée, il lui faut une majorité qualifiée pour pouvoir la renverser, ce qui est très difficile, beaucoup plus difficile que de renverser le gouvernement avec une motion de censure. Parce que nous, c'est 50% plus une voix, la majorité qualifiée, c'est 66, c'est encore bien pire. Donc, est-ce que les enjeux de ces élections européennes ne vont pas être essentiellement d'avoir les commissaires européens les moins nocifs, les moins nuisibles? Alors, c'est difficile parce que je crois que le panel qu'on nous présentera, malheureusement, ils sont légion, les nuisibles. Mais il est vrai qu'il y en a quand même des très nuisibles, comme Madame von der Leyen, qui a l'air d'être une belliqueuse, une folle de guerre, un agent états-unien, enfin tout ce que l'on peut imaginer de pire. Est-ce que la seule chose que nous puissions peut-être espérer de ces élections européennes, c'est au moins de la virer? Apparemment, même les LR ont l'air de dire qu'ils n'en veulent plus, elle est contestée au PPE. Renew voudrait bien la récupérer, mais la tradition est de dire que le président ou la présidente de la Commission est issu du groupe parlementaire européen le plus nombreux, et ce ne sera pas Renew. Donc, est-ce que la seule espoir que nous puissions avoir de ces élections qui sont quand même très mal parties, c'est de pouvoir au moins virer cette salope. Merci beaucoup.
Si tu veux répondre, vas-y.
Oui. Alors, bon, sur cette question, effectivement, l'élection européenne va être peut-être plus lisible que l'ont été les élections par le passé. Alors, il y a deux tentatives qui ont été faites par rapport à ça. Il y en a l'une, c'était la volonté de Macron de mettre en place des listes transnationales, ce qui veut dire que ça aurait été des listes qui auraient dépassé le cadre d'un seul pays. C'est pas juste le fait d'aller se présenter sur une liste dans un autre pays, c'était de mettre des listes à l'échelle de l'Union européenne. Et ben ça, c'était pour le coup décrocher la question de la citoyenneté, de la question de la nationalité, et c'était essayer de créer de force par le vote et les listes électorales une forme de citoyenneté européenne qui pourrait aller de pair avec la souveraineté européenne. Ça, c'était le grand fantasme de Macron en 2017. Il a échoué là-dessus. Mais le deuxième objet pour essayer de faire cristalliser l'intérêt sur les élections européennes, c'est cette question de ce qu'on appelle le Spitzenkandidat, c'est-à-dire, excusez-moi, l'allemand c'est vraiment pas ma langue, mais c'est quelque chose qui a été mis en place depuis 2014, effectivement, où le vainqueur de la liste majoritaire, ou plutôt arrivé en tête, devrait logiquement être porté à la tête de la Commission. Sauf que ça a été mis en place en 2014, mais on s'est aperçu dès 2019 que cette règle a été abandonnée. Il y avait deux candidats en 2019, Monsieur Weber pour le camp des conservateurs et Monsieur Timmermans pour le camp des sociaux-démocrates. Et au final, c'est Madame von der Leyen qui a été désignée au prix d'un accord, pour être très clair, un accord d'alcôve entre Angela Merkel et Emmanuel Macron. Et au départ, Madame von der Leyen n'est jamais rien d'autre que la créature de Macron et de Merkel. Alors, vous me direz, depuis, la créature a un peu échappé à ses créateurs, c'est rien de le dire. Sauf que, effectivement, maintenant que Madame von der Leyen est identifiée et dans le paysage, et qu'elle a annoncé qu'elle voulait se représenter, il y a un enjeu sur sa reconduction ou non. Il y a un enjeu d'autant plus important que vous avez vu que le Parlement européen, qui en est jamais qui ne manque jamais une occasion de se tirer une balle dans le pied, a voté une résolution au mois d'octobre qui évoquait le fait de créer un poste de présidente de l'Union européenne, qui aurait été la nouvelle désignation de la présidente de la Commission. Madame von der Leyen en a d'ailleurs remis une couche il y a quelques jours, en voulant, elle, mettre en place quelque chose de nouveau, et on revient au contexte de la guerre en Ukraine, en voulant mettre en place un commissaire à la défense, ce qui n'existe pas pour l'instant. Il y a un commissaire aux industries de défense, mais il n'y a pas de commissaire européen à la défense. Donc, il y a un enjeu sur cette question-là. Ceci étant, est-ce que cet enjeu est le plus décisif? Au regard de ce que je viens de dire et de l'expérience de 2019, je ne suis pas convaincu. C'est-à-dire que, finalement, c'est bien le rapport de force qui sortira des urnes qui obligera le Conseil européen, qui est celui quand même qui fait les recommandations et qui les soumet ensuite au vote au Parlement européen, à trouver des arrangements. Je plaide pour que Madame von der Leyen cède de la place, mais je ne sais pas si c'est l'enjeu principal. Je crois qu'il faut d'abord regarder ce qui va se passer en termes de rapport de force au sein du Parlement européen. Et là-dessus, je reviens sur la présentation que j'ai faite tout à l'heure. Je vous ai expliqué comment la démocratie minoritaire s'imposait à l'échelle des différents pays de l'Union européenne, mais sauf que ce qu'on est en train de découvrir, c'est que la démocratie minoritaire va progressivement se mettre en place aussi au sein du Parlement européen. Si je dis ça, c'est que la dernière enquête en date, cette dernière enquête donne à voir que les trois principales forces au Parlement européen, c'est-à-dire le PPE, la droite, c'est-à-dire SED, la gauche, les sociaux-démocrates, et Renew, Renaissance, les centristes, etc., ne feraient plus à eux trois que 54%, c'est ça qui c'est la dernière enquête en date, aux élections du mois de juin. 54%, ça veut dire qu'ils auraient tout juste la majorité, là où ils étaient encore au-delà des 60%, avec l'hémicycle qui est sorti des urnes en 2019. On voit donc bien qu'il y a un enjeu extrêmement fort de ce point de vue-là, à affaiblir finalement ceux qui votent toujours dans le même sens, qui mènent toujours les mêmes politiques, plus encore au Parlement européen que dans les différents que dans les différents pays. Après, la question, c'est qu'est-ce qui est capable d'émerger à côté de ça. Les Verts sont donnés à la baisse, les gauches plus radicales sont en difficulté, quand bien même elles sont un petit petit peu au-dessus de ce qui était prévu, de ce qui est sorti des urnes en 2019. Et par contre, il y a un nouveau pôle extrêmement fort et puissant qui semble se dessiner. C'est le pôle avec ID, qui est le groupe dans lequel on retrouve le Rassemblement National, et le deuxième groupe ECR, dans lequel on retrouve notamment le parti de monsieur Zemmour, qui finalement à eux deux, s'ils arrivaient à s'entendre, alors même qu'ils sont sur là aussi des lignes stratégiques qui ne sont pas exactement alignées, je pense notamment à la question de l'OTAN, eh bien si ces deux-là arrivaient à se retrouver, ils pourraient constituer par contre potentiellement à eux deux la troisième force, voire la deuxième force, voire peut-être même la première force au sein du Parlement européen. Et donc en fonction de ce rapport de force, eh bien on va avoir un Parlement européen qui va être d'une grande instabilité, certes pour l'élection de la présidente de la Commission, mais je crois même au-delà, et on pourrait avoir un Parlement européen qui pourrait non pas gripper le système, parce que on voit bien comment la Commission européenne s'affranchit totalement du Parlement européen pour mener à bien ses vues, mais qui serait quand même un caillou dans la chaussure à la fois des dirigeants actuels de l'UE et puis des différents dirigeants nationaux. Je m'en arrête là.
Philippe, vous avez un commentaire ? Merci François.
Non, merci beaucoup. Vous avez donné un panorama très complet de tout cela. Alors, est-ce que vous voyez, par contre, une influence que pourrait avoir à l'échelon européen? Je crois qu'en France, malheureusement, la division des partis souverainistes est totale. Mais y a-t-il des partis souverainistes purs? Je ne parle pas de souverainistes, faux souverainistes de droite comme Meloni, ou qui pourraient quand même donner un petit peu d'espoir. Je pense particulièrement à Sarah Wagenknecht en Allemagne.
Alors juste avant que tu ne répondes, François, je voudrais dire bonsoir à Monsieur Kuzmanovic qui est parmi nous en auditeur, et lui souhaiter une bonne soirée puisqu'il est, il nous fait le plaisir encore de sa présence. Et du coup, François, je te laisse reprendre. Surtout que, alors Philippe, vous dites que Sarah est souverainiste, mais vous pensez qu'elle est souverainiste de droite ou de gauche?
Ah bah de gauche, c'est évident.
Voilà, merci. Voilà, François, je te laisse la parole. Pardon.
Oui, en toute honnêteté, on aura du mal à voir se dessiner à cette élection un pôle souverainiste au niveau de l'Union européenne. Il se passe des choses dans les différents pays. Effectivement, ce qui se passe en Allemagne va devoir être examiné de très près, pas tant pour son implication et sa résultante immédiate au sein des résultats pour le Parlement européen, que pour ce qui va se passer dans les différents pays. Là, si vous permettez, je reviens juste au panorama que j'ai essayé de dresser sur les scènes politiques des différents pays tout à l'heure. Quand je parlais de démocratie minoritaire, il y a un corollaire à la démocratie minoritaire. C'est que les scènes politiques sont d'une manière générale gelées. Elles sont cryogénisées. Il ne se passe plus rien. Autrement dit, le problème n'est pas un problème de l'électorat, c'est un problème d'offre politique dans lequel les gens ne se retrouvent pas. Et c'est pour ça qu'en conscience, ils bloquent le système, parce qu'ils n'ont pas de débouché à leurs aspirations. Sauf que là, on voit bien que avec ce qui se passe en Allemagne, en tout cas, ça sera à vérifier, et notamment au moment des élections européennes, il y a peut-être quelque chose qui est capable de bousculer la scène politique, non pas comme une nouvelle force politique qui viendrait simplement sur la scène, mais comme quelque chose qui serait capable de créer un nouvel espace beaucoup plus large. Je le dis parce que quand on dit que Sarah Wagenknecht vient de la gauche, elle vient de la gauche. Sauf qu'en Allemagne comme en France, la gauche toute mouillée dans son rassemblement, elle ne pèse jamais plus aujourd'hui qu'une trentaine de pourcents. Autrement dit, elle est dans le temps long désormais inscrite dans la stratégie de la démocratie minoritaire, parce que c'est son seul accès au pouvoir. Et qu'est-ce qui se passe au sein de la gauche? On est bien placé pour le voir en France. On fait des jeux à somme nulle. Depuis que François Mitterrand a été élu avec 42% en 1981, que François Hollande a fait 45% en 2012, on a un socle électoral de la gauche qui varie bon an mal an entre 26-27 et 31 ou 32% quand il y a du vent dans le dos aux différentes élections. Une nouvelle offre électorale telle qu'elle semble se dessiner, je le dis pas tant à l'échelle de l'ensemble de l'Union européenne, mais dans certains pays qui vont être des pays moteurs et qui vont donner à voir quelque chose de nouveau, ça sera le cas de l'Allemagne, ça pourrait être le cas de la France, en tout cas l'espace politique existe à mon sens, eh bien ça permettrait d'élargir les différents espaces et on resterait pas dans cette tripartition qui est un piège, cette tripartition que tout le monde a acceptée en France au lendemain de 2022 en disant il y a trois blocs, il y a le bloc des il y a le bloc identitaire de la droite et de l'extrême droite, il y a le bloc de gauche, il y a le bloc centriste de monsieur Macron, éventuellement il y a un quatrième bloc des abstentionnistes. Rentrer dans cette vision de la scène politique, c'est se condamner à l'impuissance, parce qu'à partir du moment où on rentre là-dedans, tout effet de balancier reviendra forcément sur le bloc central. Voilà, on n'en sortira pas. Donc tous ceux qui veulent changer les choses, et c'est le cas sans doute au niveau européen, vont devoir créer un nouvel espace politique. Je crois qu'il y a un nouvel espace politique dans celui qui a été évoqué par Philippe il y a un instant, mais ça reste à vérifier. Par contre, n'ayons pas trop d'espoir pour que celui-ci permette de dégager un bloc en tant que tel lors des élections européennes. Et je reviens à ce que je disais en introduction, cette élection européenne qui sera réellement la seule élection intermédiaire de ce quinquennat en France sera d'abord structurante pour l'élection présidentielle. Je m'arrête là.
Ok, merci beaucoup. Alors, c'est intéressant parce que c'est vrai que moi, j'étais très intéressée par Sarah. Je dis Sarah parce que je n'arrive absolument pas à prononcer son nom et que, notamment dans une alliance RN-Mélanie au niveau européen, on l'a donné un peu comme outsiders. Et quand je t'écoute, en fait, je me rends compte que c'est peanuts. Mais bon, ça a au moins le mérite d'exister, je dirais. Et aussi le mérite de vous dire à toutes et tous que non, l'Allemagne n'est pas prospère, c'est tout le contraire, mais on ne vous le dit pas. Voilà, bah, merci Philippe, merci François, encore une fois, clarté et réalité. Je vais passer la parole à Christophe, qui est un autre débatteur, et je lui laisse exposer sa question sur la thématique. À toi Christophe.
Bonsoir Monsieur Coq, bonsoir tout le monde. Je vous ai écouté sur le fait que il y avait encore des choses à faire sur cette élection européenne et surtout, de près ce que je comprends, ça sera un témoin pour la préparation des alliances ou de la comptabilisation des forces en présence pour la future élection présidentielle de dans 3 ans. Alors, je voudrais d'abord revenir sur, avant de parler de l'élection de dans 3 ans, vous présenter mon analyse de l'utilité, entre guillemets, ou plutôt de ce qu'on peut faire avec cette élection européenne. D'abord, la France, dans cette élection, pèse 11,9% des sièges. Je parle tout parti confondu. Donc, on voit que même si tous les électeurs de France étaient d'accord pour aller dans une seule direction, on pèserait 11%, quoi. Deuxièmement, bon, vous l'avez rappelé, on l'a tous plus ou moins rappelé, mais le Parlement européen n'a pratiquement aucun pouvoir, il a juste le pouvoir de dire non à ce que lui présente la Commission européenne pour faire passer des lois, ou de dire non à l'équipe de la future Commission avec von der Leyen à sa tête. Même avec von der Leyen, on pourra nous présenter un choix A et un choix B, dans les deux cas il sera mauvais. Et il aura été organisé pour que ce soit à peu près le même vote. Et on sait ce qu'on perdra avec von der Leyen. On ne sait pas ce que l'on gagnera avec un autre qui aura été préparé comme poulain de l'OTAN ou de ce qu'on... Bref. Je m'intéresse... Je suis un souverainiste comme vous, un peu plus porté du côté de la droite. Et donc, je me suis intéressé au vote des gens qui votent à droite et de ce qu'impliquait donc le RN et Reconquête. Est-ce que, comme ils le prétendent, ils vont faire de grandes choses en ayant beaucoup de sièges, puisque les sondages semblent plutôt favorables à une augmentation de leurs sièges dans cette assemblée gigantesque de l'Union européenne, 720 députés. Et j'ai regardé donc chacun de ces deux groupes s'est affilié, de ces deux partis s'est affilié dans les deux groupes qui s'appellent ID, Identité et Démocratie, et l'autre ECR. Alors j'oublie toujours, ça ressemble à l'école de conduite. Et en fait, j'ai examiné le vote de ces groupes ID et ECR sur les traités commerciaux passés avec le Chili et la Nouvelle-Zélande pour me faire une petite idée de ce qui se passerait avec le Mercosur. Et donc, l'ERN et Reconquête nous disent que ils sont contre ces traités, que c'est terrible, qu'il faut absolument éviter qu'ils soient mis en place, sauf que les groupes dans lesquels ils s'investissent en association, ID et ECR, ont voté à fond les manettes pour donc les traités avec le Chili et la Nouvelle-Zélande, entre 66% et 90% suivant les groupes. Donc on voit même que quand on fait des analyses de force en présence au niveau européen, en fait ça ne veut pas dire grand chose, parce que même à l'intérieur de ces groupes, en fait, les votes peuvent être éclatés suivant telle ou telle thématique. Et que dans les meilleures estimations qui sont faites pour ces deux groupes dits conservateurs identitaires et un peu souverainistes, un peu patriotes, ils veulent pas faire du Frexit, mais voilà, qui veulent empêcher la France de se dissoudre, eh bien, dans les meilleures estimations, ces deux groupes n'occuperaient que 25% de l'Assemblée, et dedans, l'ERN et Reconquête seraient une partie négligeable de ces 25%. Donc voilà, je ne pense pas cette élection change quoi que ce soit dans la destinée de l'Europe des trois prochaines années. Par contre, effectivement, cela permettra de mesurer les forces en présence pour préparer des alliances ou je ne sais quoi au niveau présidentiel. Mais même là, je suis assez pessimiste sur la résolution de cette élection qui serait en faveur de la France en général, donc du souverainisme quand je dis ça. Voilà. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à mon analyse? Voilà.
Ouais, peut-être sur deux aspects. Bon, d'abord sur l'aspect des droites, avec ces deux groupes, entre le groupe des conservateurs et réformistes européens, le groupe ECR et le groupe ID. Il y a quand même des désaccords de fond extrêmement importants, dont un qui est quand même dans la période très clivant, c'est la question du rapport à l'OTAN. Autant le groupe ID prend ses distances vis-à-vis de l'OTAN, autant le groupe ECR, dans la grande tradition des droites conservatrices, est aujourd'hui très affilié à la question de l'OTAN. Donc là, il y a un désaccord de fond là-dessus, et certains ne manquent pas de le rappeler. Je pense notamment au Rassemblement National qui pointe des incohérences de la part du parti Reconquête là-dessus. Mais au-delà même de ça, par contre, les chiffres que je donnais tout à l'heure, qui faisaient que potentiellement l'alliance de ces deux partis au niveau européen pourrait en faire devenir, cette jonction, la première force au sein du Parlement européen, je crois que le petit jeu et les petits jeux politiciens font que tout ça est à même de faire taire ces désaccords. Par rapport à l'enquête à laquelle je me référais, qui est l'une des enquêtes les plus récentes, qui dit que ces deux groupes, à eux deux, pourraient avoir 183 sièges, et quand le parti qui aurait le plus de sièges à côté serait le PPE, la droite, qui n'en aurait que 173, ben, on voit que là, que ça ferait un basculement extrêmement fort et puissant au sein du Parlement européen, qui gripperait sans doute le système, qui l'empêcherait pas forcément d'avancer, mais qui pousserait la conflictualité. Et on se retrouverait dans ce que j'évoquais, cette forme de démocratie minoritaire dont vous voyez bien ce qui sort partout, vous voyez bien ce qui sort en France. C'est de la conflictualisation portée par le pouvoir lui-même, la conflictualisation dans l'ensemble des rapports politiques, eh bien, on verrait, je crois, la même chose au sein du Parlement européen. Est-ce que pour autant, je souhaite que ça ne se passe que par cette que par ce biais-là ? Non, moi, je pense qu'il y a besoin de faire émerger d'autres forces au sein du Parlement européen, mais qui viseront à continuer à amoindrir l'alliance de circonstances que j'évoquais tout à l'heure entre le PPE, les SED et Renew. Voilà. Donc, il faut faire tomber un petit peu cette espèce de grande coalition qui existe au sein du Parlement européen et qui est aujourd'hui fragilisée parce qu'elle arrive, elle pourrait arriver lors de cette élection à la limite des 50% qui lui garantit de continuer à avoir la main mise à peu près sur tout. Mais je dis un mot juste en reprenant la balle au bon là-dessus, parce que la question du rapport à l'OTAN va être une question absolument décisive. Ayons tous en tête que c'est l'article 42.7, je crois, alinéa 2 du traité de Lisbonne, qui continue à dire que l'OTAN est le fondement de la défense collective des États membres et l'instance de sa mise en œuvre. Ça veut dire que le rapport à l'OTAN, alors même qu'il y a une élection présidentielle aux États-Unis, que tout le monde a en tête les déclarations de Monsieur Trump, quand bien même ça serait pas aussi simple qu'il le voudrait de sortir de l'OTAN. Tout ça va pousser, si les dirigeants actuels, si l'équipe actuelle, que ce soit Monsieur Macron d'un côté, Madame von der Leyen d'un autre, même Monsieur Scholz en Allemagne, peu importe, tous ces aujourd'hui préside aux destinées de l'Union européenne, que ce soit en tant que dirigeant bruxellois de la Commission européenne, soit en tant que émissaire de cette commission dans les différents pays en étant à la tête des différents gouvernements, tous ces gens-là vont se saisir de l'occasion de ce double choc que j'évoquais tout à l'heure, de cette stratégie du choc telle que le dirait Naomi Klein, pour aller plus loin vers l'idée de souveraineté européenne, vers l'idée de constituer une défense européenne et finalement d'avoir une démocratie qui va devenir de plus en plus une démocratie délégative où les citoyens ne seront plus souverains dans leur propre pays, encore moins à l'échelle de l'Union européenne, mais où leur vote pour cette élection européenne conduira à laisser le pouvoir dans les mains de certains qui pousseront à la roue, comme on l'a vu depuis quelques mois avec Madame von der Leyen qui, avant toute réponse dans quelque état que ce soit a apporté son soutien à l'Ukraine et a été une va-t-en-guerre, qui a dans un premier temps, avant même que les différents dirigeants nationaux qui s'appuient, qu'on le veuille ou non, sur une forme de légitimité nationale, se soient exprimés, a apporté un soutien inconditionnel dans un premier temps à l'offensive israélienne à Gaza. Donc on a là quelqu'un qui est totalement en train de s'affranchir de l'Union européenne. C'est le problème d'un homme von der Leyen, mais c'est pas simplement le problème d'un homme von der Leyen, c'est le problème de la Commission et c'est un problème structurel. Et si on laisse les mêmes personnes aux manettes, si on laisse les mêmes équilibres en jeu au sein du Parlement européen, eh bien, le contexte géopolitique tel que nous l'avons sous les yeux conduira ces gens-là à décider d'une stratégie du choc et à imposer ces avancées qu'ils ont en tête depuis maintenant des années. J'en ai fini.
Ok, merci beaucoup. Alors j'ai une question parce que je pense que cette stratégie que tu évoques est déjà annoncée en prémisse dans l'accord bilatéral qui a été signé avec l'Ukraine, puisque j'ai fait l'analyse juridique de cet accord, j'en ai parlé vendredi à mes auditeurs, et en fait la stratégie vis-à-vis de l'OTAN et vis-à-vis de la constitution d'une défense européenne est là. Et je pense que du coup, ce n'était qu'un prisme en fait pour avoir d'autres accords qui vont suivre, parce que contractuellement, ils ne peuvent pas faire autrement actuellement, puisque l'Union européenne n'a pas en son sein encore l'Ukraine, et que donc de cette manière-là, on va avancer vers la fédération et vers la fuite totale de la souveraineté. Donc quelque part, ils essaient d'aller encore plus vite. Voilà, je ne sais pas si tu as pris connaissance de l'accord bilatéral, mais pardon, c'est assez clair sur ce point précis. Ma question portait, et avant de poser ma question, je veux juste dire aux éditeurs qui sont en attente en fait de monter, il semble que c'est Ilan et Joe. Vous allez monter, mais vous montez dans un quart d'heure, si ça vous dérange pas, puisqu'on finit l'heure de débat et on n'a pas fait le tour de tous nos débatteurs. Donc ma question, quelle est la solution en fait? Parce que tu évoquais le fait qu'il faille au niveau européen essayer d'avoir quand même encore une coalition, mais une coalition de qui, par qui, est-ce que c'est possible avec, on va dire, le schéma politique qu'on a actuellement en France? Parce qu'en fait, les citoyens, je veux dire les gens, ils veulent savoir, ils savent pas pour qui voter. Voilà, clairement. Et à un moment, on me fait souvent le reproche d'être trop dans le doctrinal. Ils ont envie de savoir pour qui je vote, pourquoi je vote. Donc là, avec tout ce que j'entends, c'est assez clair, les vases communicants, les lobbies, les forces en présence, on a tout. Mais les gens veulent savoir qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je dois voter? Pour qui je dois voter? Et qu'est-ce que ça va changer? Voilà, si tu peux essayer de nous donner une idée de ce que toi tu en penses, s'il te plaît. Ouais.
Bah, déjà, avant le pourquoi je vais voter, tu viens de le dire, tu dis, les gens se posent la question pour qui je vais voter. Ce qui est tout le problème de cette élection européenne. Personne ne sait pour qui il va voter. Il va éventuellement connaître une ou deux têtes de liste sur chaque liste, mais ça n'ira pas au-delà. Et ce qui pose derrière un problème démocratique, c'est qu'à partir du moment où les représentants ne sont plus sous le regard de ceux qui les ont élus, eh bien, s'affranchissent du lien entre le mandataire et le mandant, ils votent bien ce qu'ils veulent dans leur coin, et puis ils font leurs petites affaires dans leur coin. Je le dis parce qu'il y a une étude qui est sortie il y a quelques semaines, qui avait été relayée d'ailleurs dans le Monde, qui a testé que un quart, je dis bien, c'était même un peu plus d'un quart des eurodéputés étaient impliqués, écoutez bien, dans des affaires, que ce soit de corruption, de harcèlement ou de détournement de fonds. Un peu plus d'un quart des députés européens. Voilà ce qu'il advient quand on éloigne le centre de décision des électeurs et des citoyens. Donc la première difficulté pour nous, c'est celle-là. Et la deuxième, c'est comment agir. Je suis assez pessimiste sur cette capacité à agir au Parlement européen. Moi, je ne vois pas la capacité à faire émerger un bloc ou une force cohérente en tant que telle, qui pourrait arriver à s'imposer. La seule solution que nous avons, et c'est celle que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est celle de pousser l'ensemble des forces d'une manière ou d'une autre, se réclament de la souveraineté populaire et nationale, qui veulent faire en sorte que les citoyens restent décideurs dans leur pays et décident in fine de ce qu'ils acceptent de mettre en commun à l'échelle de l'Union européenne, que l'ensemble de ces forces-là arrivent à un moment donné à bloquer le système et à faire perdre la majorité au parti des trois là qui règnent en maître au sein du Parlement européen depuis maintenant des décennies et qui finalement fait que ils font bien ce qu'ils veulent. Voilà. Donc moi, si j'avais s'il fallait arriver à motiver un vote dans cet espace des gens qui veulent gripper ça, certains ont une culture politique qui les poussera à se joindre sur une forme que moi j'estime de repli exclusivement national. D'autres seront dans une vision beaucoup plus internationaliste, mais visée sur la souveraineté populaire pour reprendre le contrôle. Moi, je crois qu'il faut pousser pour faire en sorte que le parti des trois n'arrive pas aujourd'hui à atteindre les 50%, ce qui obligerait, ce qui gripperait déjà en grande partie le système. Et donc, le corollaire de ça, c'est qu'en choisissant bien ceux pour qui vous votez, eh ben, vous commencez à dessiner potentiellement un paysage pour l'élection présidentielle future. Et ben, si ceux pour qui vous voudriez voter ne sont pas représentés dans l'élection européenne, parce que le tamis de cette élection européenne est absolument terrible et empêche beaucoup de se présenter, eh bien, dans ce cas-là, il faut arriver à cultiver son jardin dans cette élection européenne, malgré le fait qu'il n'y ait pas forcément les listes dans lesquelles on se reconnaît.
Merci beaucoup. Ni les listes, ni les programmes. Parce qu'on a eu un intervenant qui a expliqué qu'il n'y avait pas les programmes. J'ai cherché, puisque les membres de la communauté demandent les programmes, je ne vois pas les programmes. Donc j'attends toujours qu'ils nous disent, en effet, ce pourquoi on devrait voter pour eux, finalement. Mais bon, moi je suis une puriste, en fait, de la démocratie et du vote, donc je sens bien que je rêve, mais c'est intéressant. Alors c'est fou parce que je n'ai pas vu cette enquête qui donne le quart des députés européens et leur implication. Et si jamais tu as un lien ou juste un nom, je le veux bien en DM, histoire que je la ressorte et que j'essaye de la publier parce que c'est hyper important aussi. Donc merci beaucoup. Je donne la parole à Conrad.
Bonsoir monsieur Coq. Bonsoir l'Assemblée, bonsoir Lilou. Merci pour ton space. Ça m'a permis de découvrir François Coq, que je ne connaissais pas il y a une semaine, mais qui nous a donné des devoirs. Donc j'ai étudié son parcours, son programme, ses idées. C'est fort intéressant.
On est sérieux ici, on donne des devoirs.
Exactement. Exactement. Donc, je suis arrivé au souverainisme par les admissions parallèles, mais j'ai compris il y a quelque temps que c'était quelque chose qui était primordial. J'ai beaucoup aimé dans votre message que vous avez délivré sur les différentes questions, l'intérêt donc notamment dans votre introduction sur le peuple. Donc vous avez bien corrigé le tir populiste, et donc l'intérêt du peuple, c'est quelque chose qui est primordial, puisque l'on voit que les accords de libre circulation des biens et des personnes, c'est finalement la paupérisation donc des peuples, et que in fine, sur tous les mécanismes qui sont mis, qui tendent à nous faire courir vers un fédéralisme, c'est le peuple qui en paye l'addition. Donc je me trompe peut-être, mais c'est comme ça que je l'ai traduit, et du moins c'est comme ça que je le ressens. J'ai énormément aussi apprécié le fait que vous replacez la place de l'OTAN dans les éléments qui sont à prendre en compte, en considération, et fondamentaux ou critiques, donc dans l'élaboration donc des différents schémas, et que c'est quelque chose que l'on ne doit pas retirer de l'équation. Comme disait Audiard, on a 3 ans avant les prochaines élections présidentielles. Je reviens, je recentre, ce qui m'intéresse, je suis profondément souverainiste, donc c'est le destin ou le dessein de ma nation souveraine par rapport à l'Europe. Donc comme disait Audiard dans un film, on a 3 ans. 3 ans, c'est à la fois très long et c'est aussi très court. Très long, pourquoi ? Parce que les personnes qui sont aux commandes, même si c'est une élection européenne, en France, vont continuer à rester aux commandes. Et donc, vont continuer à avancer par traité, ayant une intelligence stratégique et juridique très performante, comme nous l'a expliqué Lilou il y a quelque temps. Vous continuez à avancer vers cette perte de souveraineté, et tout en utilisant le terme en termes de marketing, souverainisme, et le collant à quelque chose qui ne doit pas être souverain, qui est l'Europe, puisque l'Europe n'est pas une nation, sont en train de nous diluer dans un fédéralisme. Vous nous parlez donc d'élire un certain nombre, ou de positionner un certain nombre de blocs, donc on parle, excusez-moi du vocabulaire, mais indirectement d'église politique au sein de l'Union européenne, qui vraisemblablement, sauf grosse révolution, ne serait peut-être pas forcément majoritaire à cette élection-là, mais peut-être dans un avenir à N+1 ou N+2, donc on va parler de 10, 15 ans. Mais entre-temps, le système va continuer à se diluer. Et la thermodynamique ou la physique nous dit qu'il est très facile de sortir la pâte de dentifrice du tube, mais pour la faire rentrer dedans, c'est excessivement compliqué. Comment envisagez-vous, un, de réussir à réunir toutes les forces de manière à ce que nous ralentissions ce mécanisme, et qu'une force, que la souveraineté reprenne le pouvoir en France pour pouvoir s'opposer aux différentes réformes européennes que l'on va subir de face. Et on entend parler d'autres personnes, d'autres mouvements, donc des souverainistes aussi, qui annoncent ou qui parlent de Frexit, de rupture par rapport à l'Europe, de comportement en tant que rebelle qui nous permettrait de récupérer la maîtrise de l'horloge et du temps, de manière à faire passer un certain nombre de réformes pour aller vers un Frexit. Comment vous vous positionnez par rapport à cela? Et j'aimerais connaître... je vous donne la parole.
Ouais, deux questions essentiellement. Je vais peut-être commencer par la deuxième, celle du Frexit. Vous voyez, moi j'agis beaucoup, en tout cas je réfléchis en fonction des temporalités. Quand j'évoquais la démocratie minoritaire, je considérais par exemple que nous étions dans une phase destituante avant le Covid, une phase destituante qui a commencé au début des années 2010, qui a vu s'affaisser la social-démocratie et la démocratie chrétienne, et qui permettait l'émergence sur la colère populaire de nouvelles forces ou de nouveaux tribuns derrière lesquels on pouvait avoir des forces. Ça a été par exemple le cas en France de la campagne présidentielle de 2017, où on a vu d'un côté l'émergence de la surémergence de Jean-Luc Mélenchon et puis celle, il faut le dire en parallèle, d'Emmanuel Macron. Ça, c'était la phase destituante. Et par exemple, je considère que nous ne sommes plus dans une phase destituante totale depuis le Covid. Je crois qu'il continue à y avoir une aspiration destituante dans le peuple, mais que celle-ci est complétée aujourd'hui par une volonté de retour à l'ordre et surtout à la sécurité chez les gens. C'est ce que mon ami Charlotte Girard appelle les solidarités repliées. Donc, de la même manière, sur la question européenne, moi, je ne pose pas la question en ces termes aujourd'hui de Frexit ou pas Frexit. Voilà. Je pense que l'Union européenne est à l'état de crise qu'il faut porter à son stade paroxystique, où la question de la sortie ne se pose pas en tant que telle. L'Union européenne est en train d'agoniser. Elle va mourir d'elle-même. Il faut la porter à ce stade paroxystique. Et à partir de là, c'est beaucoup plus facile de recréer que d'acter par soi-même une sortie de l'Union européenne. Il n'est pas sûr que cette question se serait posée comme ça il y a encore quelques années, mais aujourd'hui tout le monde voit la pente de ce qu'est l'Union européenne. Tout le monde voit que tout le monde s'affranchit des règles, qu'on peut s'affranchir aisément des règles, que l'Allemagne ne respecte plus aucun traité depuis maintenant 3 ans, que quand l'Espagne a voulu sortir du schéma européen de l'énergie, elle l'a fait. Si nous, en France, nous restons prisonniers de cela, c'est parce que nous sommes non seulement les bons élèves, mais parce que Monsieur Macron veut faire de l'Europe la matrice de sa politique et de l'Union et de l'Union européenne. Donc on voit bien que finalement pour moi la question ne se pose pas comme ça, sortie ou pas sortie. La question se pose sur le fait de porter ce phénomène d'affaissement jusqu'à son terme pour ensuite pouvoir avoir et recréer beaucoup plus facilement quelque chose. Sur le deuxième aspect, sur la question des souverainistes d'une manière générale, j'ai dit que je voyais mal comment les choses pouvaient se construire à l'échelle effectivement de l'Union européenne. Je vois bien qu'il y a dans ce qui est classifié comme les gauches radicales ou dans les non-inscrits, hein, tout ça représente au sein de l'Union européenne, et même si on prend quelques personnes qui sont au groupe SD pour les uns ou pour le reste, ça représente 100, 120, 130, 130 sièges, c'est pas négligeable, mais on voit mal comment ça peut s'agréger en tant que tel. Je crois que la question, elle se pose beaucoup plus à l'échelle nationale. Je disais que ces élections européennes vont être un bon test. Quand on va voir ce qui va se passer avec les listes de Sarah Wagenknecht en Allemagne, on va voir si effectivement il y a bien un espace qui se crée. Et sur quoi mord cet espace? Est-ce que cet espace mord exclusivement sur la social-démocratie allemande, ou est-ce que cet espace mord aussi sur l'AFD qui a le vent en poupe outre-Rhin? Ça va être important de regarder tout ça. Ça, et ça va donner des leçons aussi pour ceux qui voudraient faire la même chose aujourd'hui. Alors, quelle stratégie pour les souverainistes? Tout dépend de la grille d'analyse qui est faite. Si on fait la grille d'analyse qu'aujourd'hui, les citoyens ne sont plus en maîtrise des choix et des décisions publiques, et si en plus on fait le choix de dire que on ne peut pas avoir peur des choix populaires qui seront effectués, et ça ne sert à rien d'avoir des épouvantails en disant si on donne aux gens le choix, ils vont rétablir la peine de mort, ils vont mettre tous les gens d'origine nord-africaine à la mer. Bon, voilà, si on part de ce postulat-là, bien sûr qu'il faut pas croire en la démocratie totale et intégrale. Mais si on pense que la souveraineté s'assoit d'abord sur la souveraineté populaire, dans ce cas-là, il y a les moyens d'aller vers un arc souverainiste qui sera un arc souverainiste ouvert. Je crois que si les choses doivent se faire, par contre, elles ne peuvent se faire que par le bas. Elles ne peuvent pas se faire par le haut, par exclusivement des accords. Il faut que chacun vienne de manière ouverte pour créer ce nouvel espace. Les tentatives qui ont eu lieu là-dessus ont jusqu'à présent toujours achoppé sur l'effet qu'au dernier moment, ceux qui voulaient s'engager dans une telle démarche ont été rattrapés par la peur du vide et se sont réaffiliés au vieux parti en disant il faut faire les choses par étapes, il faut d'abord avoir la légitimité de tel ou tel parti avant de pouvoir élargir l'espace. Et je crois qu'aujourd'hui les citoyens ont besoin qu'on leur donne des garanties, mais que ces garanties sont pas affiliées à ces vieux partis. Ils ont besoin qu'on leur donne des gages de sincérité dans la démarche telle qu'elle est proposée, et avant de chercher l'investiture de quelque force que ce soit, il faut mettre sur la table le projet. Voilà, je crois un peu moi comment je vois quelle réponse j'essaierai d'apporter à cette question qui est extrêmement complexe, mais dont on voit qu'elle est de plus en plus nécessaire et d'actualité, qui est celle de l'union des, je ne sais pas si c'est l'union des souverainistes, parce que c'est sans doute pas comme ça qu'il faut le dire, mais en tout cas de la façon de matricer ce courant de pensée qui a une place de plus en plus centrale en termes d'analyse au sein de la société.
Je vous remercie pour votre réponse. J'ai une demi-question très rapide. En l'absence de représentativité au sein des médias, comment comptez-vous pouvoir inséminer cette réflexion auprès de la population ?
Écoutez, il y a là aussi, hein, j'ai fait partie d'un courant où on a essayé de créer, de devenir notre propre média. Je crois que ça correspond ça aussi à une période qui est en partie révolue. Ça ne suffit pas à soi-même. Les choses sont très changeantes. Voilà. Moi, j'avais fait l'analyse que, par exemple, autant l'élection de 2017 en France était une élection qui se jouait sur les réseaux sociaux et sur le terrain, autant l'élection 2022 allait être une élection très télévisuelle. Je continue avec le regard sur ce qui s'est passé, je continue à penser que c'est ce qui s'est effectivement passé. Je peux pas dire quel sera le paysage et sur quel terrain se jouera l'élection présidentielle de 2027, mais moi, je ne suis pas pour abandonner le terrain des médias dits dominants. Voilà. Je vois tous ceux qui se parent de pudeur de gazelle et qui disent il faudrait pas faire ci, il faudrait pas faire ça. Moi, je crois qu'il y a des portes qui peuvent être enfoncées. On peut avoir des convictions et malgré tout faire de l'analyse politique propre tout en faisant passer des messages. Il y a quelques personnes qui le font aujourd'hui, qui ont leur rendre serviette, ça les empêche pas de dire des choses dans lesquelles moi, par exemple, je peux très bien me retrouver. Je crois qu'il y a tout un travail à faire là-dedans, parce que les médias aussi sont touchés et frappés par cette crise du discrédit du politique, et ils sont obligés de s'ouvrir qu'on le veuille. Après, il faut y envoyer les bonnes personnes, celles qui vont faire valoir les enjeux et qui sont pas là pour simplement montrer leur tête à la télé ou faire entendre leur voix sur les ondes.
Je vous remercie, monsieur, pour votre franchise.
Oui, moi aussi, merci beaucoup. Alors, personnellement, je pense que les réseaux sociaux sont clés pour la prochaine élection et d'ailleurs pour un ensemble de choses, parce que les réseaux sociaux, pour qui sait les manier, donnent la parole à des quidam qui peuvent devenir viraux dans les termes qu'ils utilisent. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on a une plus forte professionnalisation de l'utilisation des réseaux sociaux qu'on avait lors de la dernière élection. Les réseaux sociaux ont manqué à certains candidats dans la dernière élection. Et ils ne leur ont pas manqué que pour gagner, mais ils leur ont aussi manqué pour continuer à exister. Parce que lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, il y a une forme d'accessibilité aux citoyens qui peut vous écrire, qui peut vous liker, qui peut vous dire non, je suis pas d'accord, même si on ne répond pas forcément à toutes les commentaires négatifs. Et je suis aussi assez d'accord sur le fait qu'il faille conserver quand même, on va dire, le substrat, pour reprendre un de tes termes, de médias mainstream qui sont extrêmement décriés et qui souffrent aussi d'une grosse crise de confiance, pour autant que la facilité maintenant qu'ont les gens à pouvoir filmer et à pouvoir mettre directement en ligne coupe l'herbe sous le pied de beaucoup de mensonges. Et j'aimerais, et c'est pour ça que je profite de ce que tu viens de dire pour l'exprimer à l'ensemble des personnes qui sont là et à celles qui réécouteront soit ce space, soit d'autres, soit qui iront sur ton profil consulter tes travaux ou d'autres, de bien prendre conscience en fait que vous n'êtes pas censuré en réalité, ce que je vous entends souvent dire, et que vous avez un pouvoir. Comme nous avons aussi un pouvoir de lobby digital, comme j'en parle très souvent, vous avez un pouvoir d'être libre sur la consultation de vos informations, de faire le tri aussi. Mais je trouve ça hyper intéressant d'avoir un homme politique qui nous dit le fond réel de ses pensées, qui vous abreuve d'éléments qui vont vous permettre de réfléchir, c'est extrêmement important, mais aussi que vous voyez que vous avez une porte ou un pouvoir de soutien. Et lorsqu'on part de cet arc souverainiste ouvert, je pense que ça va faire sens dans vos têtes comme ça a fait sens dans la mienne, dans ce que j'ai pu avoir comme chemin politique. Voilà, donc merci beaucoup François. Ça fait donc maintenant plus d'une heure que les débatteurs ont débattu, sauf à ce que Christian ou Baptiste ait une question en plus à poser maintenant. J'en profite pour vous dire que j'ai réussi à remettre tous les documents dans la bonne bulle, puisqu'en fait j'étais restée sur l'autre bulle de présentation. J'ai également mis l'article du Monde que François a évoqué tout à l'heure, excusez-moi, sur les députés européens. Donc n'hésitez pas à aller le consulter. N'hésitez pas à partager aussi des documents et le space. C'est toujours bien pour que l'information circule. Et maintenant, Christian ou Baptiste, est-ce que vous avez une volonté de poser une question ou autre?
Bonsoir Lilou, bonsoir Baptiste, bonsoir Christoupe, bonsoir Conrad et bonsoir Monsieur Coq, merci pour votre présence et la teneur et la contenance, la densité de vos propos. Ouais, j'ai deux questions. Il n'y a pas très très longtemps, on nous a fait le coup de la croissance négative. Bon, j'ai plus de sympathie pour vos concepts de souveraineté négative et de démocratie minoritaire. Il n'en reste pas moins que c'est des oxymores. Est-ce que elles ont la même vocation qu'a eu l'utilisation de l'expression croissance négative, à savoir de nous cacher qu'on était dans une période de récession? Est-ce que c'est simplement un moyen de ne pas dire que nous ne sommes pas en démocratie? Et ma deuxième question, c'est dans les blocs que vous avez cités, vous êtes très peu attardé sur celui que vous avez évoqué très très rapidement, qui est le quatrième bloc, qui est celui de l'abstention. Je voulais savoir quel regard vous avez sur ce qui la constitue, quel en est l'enjeu, et quelle lecture vous avez sur la possibilité de remobiliser les abstentionnistes. Ça m'intéresse tout particulièrement, puisque j'en suis. Je vous remercie.
Ouais, merci pour ces questions. Sur l'idée de démocratie minoritaire, je crois, alors, bien sûr que ça signe non pas la fin de la démocratie, mais comme son nom l'indique, ça signe la fin du fait majoritaire. Or, le fait majoritaire, c'est pas rien en politique. C'est une évolution qui s'est faite progressivement, qui apparaît avec Spinoza. Et aujourd'hui, on a du mal nous-mêmes à se représenter un choix politique qui ne repose pas sur le fait majoritaire. Sauf que là, ben, on continue à nous dire qu'on est dans le fait majoritaire, et donc du prétendu fait majoritaire, puisqu'aujourd'hui on nous dit pas que Monsieur Macron est minoritaire, on nous dit qu'il y a une majorité relative. Vous avez bien entendu la bataille sémantique qui a eu lieu au lendemain de l'élection législative de 2022. Et ben, au nom du fait que ça reste une majorité dite relative, donc une majorité quand même, eh bien on en déduirait, ou on devrait en déduire, une forme de légitimité, et de la légitimité, on devrait en déduire du consentement. Voilà comment marche le puzzle tel qu'on veut nous le faire avaler. Sauf que à partir du moment où, pour moi, il n'y a plus de fait majoritaire, qu'on est dans une situation de démocratie minoritaire, la question de la légitimité est posée. Je ne dis pas, par exemple, que M. Macron n'est pas légitime, mais je dis que il y a plusieurs légitimités qui coexistent dans un même espace. La légitimité qui est la légitimité de l'élection dont il peut se prévaloir, mais également la légitimité qui est attachée à la souveraineté populaire, qui est par nature inaliénable et indivisible, et qui coexiste et qui rentre en confrontation avec la légitimité de M. Macron. Ça, c'est l'épisode des Gilets jaunes, par exemple. C'est deux légitimités qui se font face. D'un côté, la légitimité populaire, de l'autre côté, la légitimité qui était celle de l'élection. Donc, quand je dis démocratie minoritaire, c'est pas simplement pour... c'est pas pour ne pas dire qu'on n'est pas en démocratie. C'est pour dire qu'on est dans un état du fonctionnement démocratique qui est dans un... qui est un état d'affaissement, et qui, pour le coup, va nous conduire à quelque chose qui n'est plus la démocratie, dès lors que les seules réponses que vont mettre en place ceux qui sont au pouvoir pour continuer à gouverner dans cet état instable qu'est la démocratie minoritaire sont des formes de conflictualisation. Et je l'évoquais tout à l'heure, une conflictuation qui ne vient pas de la base et du terrain, mais qui vient des dirigeants eux-mêmes. Voilà le risque de ce qu'est la démocratie minoritaire. Alors, attention, il y a peut-être d'autres sorties à la démocratie minoritaire. Je vous ai dit que le pic de la démocratie minoritaire avait été atteint dans l'Union européenne en 2018. Moi, je regarde chaque élection dans chaque pays désormais, je fais mes petits tableaux. Qu'est-ce qu'on voit se dégager ? Partout où il y avait des démocraties minoritaires, on en sort progressivement, partout, quasiment partout, et on en sort soit en allant avec le recours à l'extrême droite, soit au gouvernement, soit qui aide à mettre en place des gouvernements, soit, et c'est le cas le plus général, on en sort avec ce qu'on appelle des coalitions grands chapiteaux, des coalitions big tent, dans lesquelles on a des attelages hétéroclites. Je crois que c'est ça surtout ce qui va être la prochaine étape. On l'a déjà par exemple en Allemagne, hein, avec une coalition avec les sociaux-démocrates, les libéraux et les verts. Donc tout ça n'a absolument aucune cohérence idéologique. On voit bien que ça achoppe sur le fond pour les grandes décisions en Allemagne, et je partage ce qui a été dit tout à l'heure, l'Allemagne ne va pas bien à aucun point de vue, elle ne va pas bien économiquement, elle ne va pas bien industriellement, elle ne va pas bien démocratiquement. Donc je crois que c'est ça la sortie, qui n'est pas une réponse, là encore, qui sera une réponse durable. Donc on est dans un état qui reste un état instable. Et très vite sur la deuxième sur la deuxième question, sur la question des abstentionnistes, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Mon analyse de la situation politique est que ce n'est pas un problème de demande politique, ce n'est pas un problème au niveau de l'électorat, c'est un problème d'offre politique. Où qu'on soit, on rejoue partout le même match avec des situations qui sont gelées. Je voyais que 80% des Américains n'avaient pas envie de rejouer le match entre Biden et Trump. Mais souvenez-vous, en 2021, à la fin de l'année 2021, plus de 80%, je crois que c'était 85% des Français, ne voulaient pas voir rejouer le même match entre Monsieur Macron, Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon. Partout, on a un problème d'offre politique, qui est un problème non seulement des courants politiques et des offres politiques sur les questions de fond, mais qui est aussi aujourd'hui un problème sur les questions d'incarnation. On a des dirigeants dans de nombreux pays qui sont de plus en plus les mêmes, par-delà la victoire ou par-delà la défaite. Et c'est ça qui est nouveau. Avant, on avait des dirigeants qui se maintenaient au pouvoir parce qu'ils gagnaient. Maintenant, on a des dirigeants qui gagnent, mais qui perdent aussi, et qui finalement continuent à se re-représenter à une même élection, et qui gèlent la scène politique. Tout ça crée beaucoup de désarroi. Je crois effectivement que chez les abstentionnistes, de plus en plus d'abstentionnistes sont des abstentionnistes qui sont abstentionnistes en conscience et qui marquent là un geste politique. C'est pour beaucoup se sont aperçus que le vote blanc était aujourd'hui quelque chose qui finalement était moins pris en compte en termes d'analyse électorale que l'abstention, et donc de plus en plus de gens se retrouvent là-dedans. Il faut les convaincre de revenir sur la scène, dans le débat public et dans une participation plus active, mais j'ai bien du mal, moi, à les faire revenir dès lors que le problème d'offre politique demeure.
Merci beaucoup.
Oui, merci beaucoup. J'en profite du coup, là vous avez vraiment une explication vis-à-vis de l'importance du vote, et tout à l'heure aussi ce qui a été dit sur le fait que l'Allemagne ne respecte pas les traités, que l'Espagne ait pris des positions également différentielles des traités, c'était tout le space qu'on avait fait sur les opt-in et les opt-out. Pensez aussi à la Hongrie, et pensez à tous ces pays qui arrivent à imposer leur volonté au niveau européen. Et comme je vous l'ai dit à chaque fois, et François l'a expliqué tout à l'heure, il n'a pas dit exactement ce que je dis, mais vous voyez bien qu'il y a une volonté politique. Il faut une force de volonté politique pour pouvoir actionner des personnes comme moi qui font en sorte que les textes puissent être mis dans un certain rouage et que les décisions politiques trouvent effet. Donc vous voyez bien que c'est une machine qui est complexe, et que si au départ il n'y a pas de volonté politique, on ne peut pas avancer, on ne peut pas travailler. Donc en France, on n'avait pas cette volonté politique. La réalité, elle est là, parce que l'enjeu était ailleurs. Et cet enjeu, ne correspond pas forcément au fameux agenda que je peux entendre partout sur Twitter, en tout cas dans les spaces. Ça correspond plus à une stratégie politique. J'espère que là, vous l'avez bien entendu. Et le deuxième point aussi que je voulais vous faire valoir ou mettre en lumière, au-delà du fait qu'il y ait cet intérêt pour le souverainisme, voyez aussi qu'il y a cette notion de la démocratie. Combien de space fait-on ? Combien de fois s'affronte-t-on ? Je vois la main levée de Christophe, pour dire que nous ne sommes plus en démocratie, que nous serions dans une tyrannie comme l'a évoqué Philippe Comte, là vous entendez qu'il y a un affaissement de la démocratie et vous pouvez le faire correspondre avec ce que je vous ai expliqué il y a quelques jours, à savoir que j'ai une inclinaison, notamment vis-à-vis des institutions parlementaires, à dire que nous sommes en train de passer, pas à un autre régime, mais en tout cas de perdre de plus en plus de pouvoir en tant que citoyen. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, défendez vos droits, agissez, votez. Donc merci François et Christian pour cet échange. Alors, vous pouvez monter en auditeur, hein, n'hésitez pas, j'ai invité plusieurs personnes à le faire, surtout qu'on est dans le timing de fin. Joe, c'est à toi de prendre la parole et ensuite ce sera Christophe.
Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir François. J'ai pris une claque tout à l'heure quand j'ai entendu parler du concept de souveraineté négative. Ça m'a beaucoup interpellé. Ça m'a fait penser à... Alors comme je suis un peu feignant, moi je prépare pas grand chose.
Ah ben voilà.
Il y a déjà très longtemps, j'avais entendu parler de la notion de quasi-État. Alors je sais plus qui c'est qui avait sorti cette notion-là. C'est un Américain. Enfin bref. Et en gros, il expliquait que que certains quasi-États existent que selon la volonté de la communauté internationale. Et on en a aujourd'hui, hein, on a le problème de la Transnistrie, du Haut-Karabakh, la Palestine, on peut en parler aussi. Donc est-ce que la notion de souveraineté négative, c'est plus lié à ça, ou est-ce que c'est lié plutôt à, et là je rejoindrai plutôt Emmanuel Todd dans son dernier livre qui explique que les démocraties libérales sont devenues des oligarchies libérales. Alors est-ce que justement du fait de cette transition délétère pour les peuples, est-ce que la souveraineté négative c'est pas plutôt lié à l'émergence d'une supranationalité sans peuple? L'Europe est-elle une entité où il y aurait un peuple, c'est-à-dire un affectio societatis de l'Atlantique à l'Oural quasiment? Voilà, c'est ma question.
Alors, juste avant que François ne réponde, si tu le permets François, c'est apparu dans les années 90, c'est comme l'État failli ou l'État de facto, et ça vient, enfin en tout cas, une réflexion qui est très intéressante, je vais vous mettre les références, de Splitting Up of World of Political Space, a Reflection on the Increasing Number of States, c'était une réflexion globale sur le nombre d'États aux États-Unis, et Stéphane Rosière a écrit dessus, donc je vais vous mettre dans la bulle cette notion de quasi-État ou d'État failli. Voilà.
Tu bosses plus que moi.
Oui, j'aimais bien cette notion-là, donc c'est pour ça que je bois du petit lait. Bref, excuse-moi François.
Non, mais c'est bien d'avoir toutes ces précisions. Sur cette question de souveraineté, en fait, il suffit de revenir au terme. D'où vient souveraineté? Souveraineté, ça vient de superannus. Superannus, c'est ce qui est supérieur à tout le reste dans son genre. À partir de là, vous pouvez pas faire cohabiter deux souverainetés qui, à un moment donné, se font face. Il y en a toujours une qui s'impose à l'autre. La question aujourd'hui, c'est quelle est la souveraineté qui s'impose? Alors, il n'y a pas de peuple européen, tu viens de dire. Moi, je rejoins ça, mais il n'y a pas comment qui rejoint ça pour dire ça. La cour de Karlsruhe, la cour constitutionnelle de Karlsruhe en Allemagne en 2009, a rendu un arrêt pour dire cela, qu'il n'y avait pas de peuple européen et qu'à partir du moment où il n'y avait pas de peuple européen, c'était en dernier ressort toujours le Parlement national allemand qui devait avoir le dernier mot. Moi, en l'espèce, je fais beaucoup référence à un discours qui, pour moi, est l'un des plus grands discours de la Ve République, qui est le discours de Philippe Séguin. Vous voyez, hein, je viens pas forcément de ce courant-là, mais je trouve que la première partie du discours de Philippe Séguin, le 5 mai 1992, à l'Assemblée nationale, à l'occasion du débat sur le traité de Maastricht, est un discours absolument fondateur. Et que disait Philippe Séguin à ce moment-là? Il disait « on est souverain ou on ne l'est pas, mais on ne l'est jamais à demi. Par essence, la souveraineté est un absolu qui exclut toute idée de subordination et de compromission. Un peuple souverain n'a de compte à rendre à personne et n'a, vis-à-vis des autres, que les devoirs et les obligations qu'il choisit librement de s'imposer à lui-même. » Bon, ben, si on rejoint Philippe Séguin sur cette analyse, ce qui est mon cas, on pense que dès lors qu'il y aurait une souveraineté qui s'imposerait à la souveraineté populaire et nationale, eh bien, cette souveraineté serait de fait une souveraineté délégative. Et je l'ai exprimé au début, à partir du moment où cette souveraineté est délégative, à qui est-elle déléguée? Elle n'est pas déléguée par accrocher un peuple européen qui n'existe pas, elle est déléguée à un impérium démocratique, donc c'est moi, exclusivement, c'est celui dont nous avons discuté pendant toute la première partie de l'émission.
Merci beaucoup. Alors, je vous mettrai l'arrêt dont parle François, qui est l'arrêt de la Cour constitutionnelle allemande du 30 juin 2009. Il me semble que c'est celui-là auquel tu fais référence. Et je trouve que c'est hyper intéressant de se pencher sur ce tribunal constitutionnel. C'est pas le sujet ce soir, mais faire le parallélisme du fonctionnement du tribunal de Karlsruhe avec notre Conseil constitutionnel va vous faire quelque peu halluciné, et c'est à ce moment-là que vous verrez en effet la notion de souveraineté peut-être prendre plus de consistance dans le prisme du juge, puisqu'on me dit aussi souvent que les juges du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel ne font rien qu'appliquer les ordres de Bruxelles. Voilà, donc merci. Je vais passer la parole à Christophe, mais avant Christophe, parce que je voudrais respecter mes auditeurs, certains auditeurs m'ont envoyé deux questions et je vais te les dire. Êtes-vous socialiste par rapport à Montebourg ou communiste par rapport à Fabien Roussel? Voilà, question de positionnement, j'imagine. Et avez-vous évolué depuis le saccage de la gauche? Voilà, je te laisse répondre, si tu le souhaites.
Alors sur le premier point, je vais répondre facilement, mais je vais répondre sans faux semblant. Moi, je me suis toujours considéré comme engagé au sein du mouvement ouvrier avec un prisme autour de la laïcité, autour des questions de souveraineté. Ça m'a conduit à éviter beaucoup d'engagements dans un certain nombre de forces, tant politiques que syndicales, d'organisations de jeunesse ou politiques. Je me suis engagé, j'ai été l'un des fondateurs du Parti de gauche en 2009, et j'ai été l'un de ceux qui ont théorisé et porté l'idée de la France insoumise sur son axe stratégique de l'élection présidentielle de 2017. Je me suis retrouvé en désaccord après cette campagne qui était pour moi une campagne de rassemblement populaire et républicain. Je me suis trouvé en désaccord avec le tournant stratégique qui a été celui basculé sur la question du rassemblement de la gauche, que j'avais analysé. Et, à l'époque, mais sans se dédier, que la gauche, j'ai évoqué tout à l'heure, hein, à elle toute seule, pesait 30%, et que moi je ne voyais pas l'intérêt, quand bien même d'arriver, si on arrivait au second tour, d'être là pour faire de la figuration, parce que je ne voyais pas comment on pouvait faire la bascule sur un deuxième tour, parce que je n'abandonne pas l'ambition majoritaire, justement, et le fait de créer une majorité populaire et culturelle. Donc, j'avais des désaccords, mais j'étais dans ce courant-là. Je me suis mis en retrait et j'ai essayé de réfléchir aux questions, notamment aux questions de démocratie à l'époque, et ça m'a amené à être très engagé aux côtés des Gilets jaunes. Et puis, quand l'élection présidentielle de 2022 s'est présentée, effectivement, pour différentes raisons, qui sont notamment ce que j'ai évoqué tout à l'heure avec la question de la crise Covid, qui faisait que je pensais qu'on n'était plus dans un temps purement destituant, mais que ce n'était donc plus un temps où il pouvait y avoir un surgissement tel qu'on nous aurions.
Ah, on l'a perdu, est-ce que vous l'entendez encore, les côtes, ou pas?
Non,
j'ai plus de connexion. On l'a perdu.
Ah, on t'entend de loin, François. Je sais pas si tu nous entends. Bien, ça plante. Alors, hop. Tac, ouais. On va voir. Une erreur. Très bien. Oh, les spaces en ce moment, c'est une tannée. Alors, je vais te supprimer, puis je vais te remettre. Hop. Ah, Alors, est-ce qu'il est revenu ou pas? On attend, il va revenir. Il est là pour quelques minutes. Je vais essayer de lui renvoyer encore. Ah, ça y est. Non, par contre, tu fermes ton micro et tu lèves la main comme les autres, hein.
Oh non.
Sinon, je te sors. T'as le choix.
Oh, tu me sors où?
Bon, allez. Toi, tu vas sortir d'ici tout de suite. Tac. Voilà, je suis pas réputée pour être très démocratique sur la gestion des spaces, n'est-ce pas? Donc, hop. Surtout qu'on parle de sujets importants, donc si vous pouviez juste avoir le respect, ça serait génial. Invité à parler, quel plantage. Alors je viens de lui envoyer une invitation, j'espère que ça va pas replanter. Ouais, on plante. Je pense que si tu m'entends, ouais, si tu m'entends, il faut que tu passes sur ton tel, je pense, parce que je pense que par ordi, ça plante trop. Ouais.
Est-ce que vous m'entendez ça?
Ouais, super.
Ouais, excusez-moi, je suis désolé, j'éteins le ordinateur, ça a l'air de mieux fonctionner sur le téléphone, je suis désolé.
Non, mais pas de problème, vas-y, on t'écoute.
Non, ben bon, c'était sans doute pas passionnant hein, ce que j'étais en train de vous raconter, mais je vous expliquais un petit peu mon parcours pour répondre à la question qui m'était posée. Je vous expliquais pourquoi j'ai pensé que dans le prolongement et pour être fidèle aux idées que j'avais défendues les 10 années précédentes, je me suis engagé dans l'élection présidentielle aux côtés d'Arnaud Montebourg, et pourquoi ensuite, quand la candidature de celui-ci a été retirée. J'ai fait l'analyse que je pensais que pour l'utilité pour la gauche à moyen et long terme et pour qu'elle garde un centre de gravité qui me semble acceptable sur le fond, il fallait non pas s'engager pour la suite, mais aller tenir un propos républicain et de laïcité, ce que j'ai fait à un meeting de Fabien Roussel, mais mon engagement s'est arrêté là, et au regard de ces expériences, j'en suis revenu à ce que j'avais fait les années précédentes, c'est-à-dire continuer à essayer plus de faire de l'analyse que d'être engagé directement sur le champ politique, dès lors que je n'ai pas, et je le dis, vous l'avez peut-être compris dans mes propos ce soir, je crois que je n'ai pas aujourd'hui la martingale pour arriver à sortir de cette situation de blocage telle que nous la connaissons. Je voudrais bien arriver et vous proposer une solution clé en main, mais je mentirais en disant ça. C'est aussi les limites aujourd'hui de mon engagement, mais je crois qu'on est dans une période où on a besoin de deux choses. L'une, c'est de faire pas mal de jus de cervelle quand même tous ensemble, et ça, je crois que les moments d'échange vraiment sur le fond, comme c'est le cas ce soir, y aident. En tout cas, moi, je vous remercie parce que ça m'aide à réfléchir. Et puis, la deuxième chose, c'est que je crois qu'il y a une aspiration pour le courant de ceux qui croient en la souveraineté populaire et nationale, qui est de plus en plus centrale dans la société, et que le temps des petites chapelles va être un temps qui va, à mon avis, être assez vite résolu, et il va falloir commencer à penser à faire les choses un petit peu différemment.
Parfait, je suis entièrement d'accord avec ça, donc merci beaucoup. Alors, je vais donner la parole à Christophe, mais j'indique à Fabrice que je l'ai fait monter et qu'il sera minuté sur son temps. Voilà. Christophe, c'est à toi.
Rebonsoir, Monsieur Coq. Je voulais relever quelque chose que vous avez dit et qui pour moi est assez important parce que je sur les spaces et dans les débats, je milite souvent pour que les gens distinguent bien de ce qui est de l'ordre du légal et de ce qui est de l'ordre du légitime. Et un peu plus tôt, vous avez évoqué le fait qu'il y avait une opposition entre la légitimité du peuple et la légitimité de du type que j'appelle le tyran. Emmanuel Macron a été élu légalement. Il a suivi le cours de la loi. Par contre, la légitimité ne lui appartient pas. Dans la Constitution, vous pourrez chercher le mot légitimité, il n'y figure pas. La légitimité appartient au souverain. Dans une monarchie, c'est le roi qui est souverain. Dans une démocratie, c'est le peuple. Et donc, il ne peut pas y avoir d'opposition entre la légitimité de la pseudo-légitimité de Macron et celle du peuple. Macron est légal, le peuple est légitime. Et vous avez d'ailleurs rappelé qu'un an plus tôt, tous les sondages disaient que 80% du peuple français ne voulait pas voir un duel Marine Le Pen-Emmanuel Macron. Ce qui, voilà, et donc il ne peut pas être légitime dans ces conditions-là. Il est légalement élu, mais il est illégitime, puisque le peuple n'en voulait pas. Ce qui m'amène à la deuxième chose sur le concept de démocratie. Alors, je ne vais pas faire une démonstration longue parce que Lilou me connaît et que je pourrais... Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Cela dit, je vous propose de lire un livre dont j'ai mis les coordonnées en haut ou d'écouter la vidéo de son auteur qui résume son livre. Le livre s'appelle « Démocratie, histoire d'un mot » et il résume l'histoire du concept de démocratie de un peu avant la Révolution française, pendant et après, pendant tout le 19e siècle, jusqu'à l'arrivée au 20e. Et grosso modo, pendant toute la période jusqu'à la fin du 19e siècle, la France n'est pas une démocratie dans la bouche d'aucun politicien. Le mot démocrate est une insulte entre politiciens. Le camp, entre guillemets, des gens qui voulaient faire venir une démocratie pendant la Révolution a été écrasé. C'est le camp qui voulait faire venir un nouveau système qu'ils ont appelé le régime représentatif ou le système représentatif. Et à partir de la fin du 19e siècle, une campagne de marketing, de neuromarketing, a voulu expliquer que d'abord aux États-Unis, puis en France, les systèmes dans lesquels nous vivions étaient en plus d'être une république, ils étaient démocratiques, ce qui n'était pas le cas avant. Et c'est du simple marketing. Et aujourd'hui, on a été tellement intoxiqué par cette propagande que l'on croit qu'on vit en démocratie. Mais voilà, regardez la vidéo, vous comprendrez tout ce que je veux dire. Dernière chose, vous parliez d'une martingale pour échapper à au fait qu'on soit condamné à ne pas arriver à trouver une majorité dans ce système. Et je voudrais vous expliquer qu'il y a quelqu'un qui a imaginé il y a quelques années quelque chose qui pourrait marcher si c'était bien appliqué. C'est un Américain qui s'appelle Lawrence Lessig, qui est un des plus grands juristes américains de Harvard, et qui, faisant le constat que le système politique américain, j'ai pas dit une démocratie, j'ai dit un système politique, était totalement verrouillé par la corruption financière qui abreuve les élections présidentielles, a voulu proposer une porte de sortie. Je crois que c'était en 2012 ou 2016, je ne sais plus exactement. Il a été très vite balayé dans le système de sélection du Parti démocrate, mais son idée était très bonne et je vais l'exposer simplement. Il s'est engagé dans cette élection en proposant d'être un président référendum ou un candidat référendum. L'idée était très simple. il proposait au peuple américain zéro programme politique, c'est-à-dire il ne proposait pas de gouverner les États-Unis, il proposait de démissionner dans les mois qui suivaient son élection. Mais entre le moment où il aurait été élu et le moment où il démissionne, il proposait un référendum pour changer quelques mots, quelques phrases dans la Constitution pour libérer son pays de la corruption financière lors des élections. Ça, c'était son credo. Mais l'idée étant, je trouve, très bonne, c'est-à-dire qu'un plutôt que de chercher un homme providentiel qui aurait sous son aile un programme politique complet, qui devrait séduire tous les Français, l'idée est donc plutôt de trouver un porteur d'un projet minimaliste qui déplaît au moins de personnes possibles et qui transformerait la France en démocratie, par exemple, mais ça pourrait être autre chose, en proposant d'inscrire dans notre Constitution un référendum d'initiative citoyenne, comme en Suisse, qui permette au peuple français de changer et sa Constitution et ses lois. Sur ce seul petit programme politique, et de ne pas promettre de gouverner la France pendant les 5 prochaines années. Ça pourrait être le prétexte pour que des gens qui ordinairement votaient LFI et des gens qui ordinairement votaient RN ou Reconquête trouvent le même intérêt dans ce programme qui n'est ni de droite ni de gauche et qui ne les engage à rien sur la longue durée. Voilà, je voulais juste vous soumettre cette idée qui s'appelle la proposition du président référendum ou du candidat référendum. Voilà, si vous avez une réaction sur ça.
Ouais. D'abord, peut-être une réaction sur la question de la légitimité. D'abord, merci pour ces éléments. Sur la question de la légitimité, moi je considère que cette question de la légitimité est liée à une difficulté, à un biais que nous avons aujourd'hui, qui est le biais de la forme institutionnelle. Voilà. Je crois que la forme de la démocratie représentative aujourd'hui est insuffisante à retranscrire l'ensemble des aspirations populaires. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de forme représentative, je dis qu'elle est insuffisante à retranscrire l'ensemble des aspirations populaires. Dès lors, on a un hiatus entre d'un côté le champ institutionnel et de l'autre côté ce qui est hors du champ institutionnel qu'on pourrait qualifier du champ des aspirations populaires. Et les deux aujourd'hui se font face et ne se parlent pas. Et ça crée donc des légitimités différentes. Il y a un chaînon démocratique manquant aujourd'hui entre le champ institutionnel et le hors champ institutionnel. Tant qu'on n'aura pas résolu cette question-là, qu'on restera dans une démocratie dite représentative qui en fait est devenue une démocratie délégative, alors on ne sortira pas du problème. Donc ça nécessite une révision de nos institutions. Ça nécessite à un moment donné de donner une capacité de proposition et de contrôle à la force populaire sur le champ institutionnel. C'est pas très compliqué à faire, ça faisait partie des questions qui étaient déjà à l'étude chez les Jacobins au moment de la Grande Révolution. Il y avait des propositions, il y avait le fait que certaines formes d'assemblées populaires pouvaient faire directement des propositions de loi. Il y avait le fait qu'il y ait un contrôle populaire a posteriori des lois qui avaient été votées l'année précédente, etc., etc. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui, on ne sortira pas de ce problème de légitimité si on n'arrive pas à résoudre ce problème entre le champ institutionnel et le champ hors institutionnel. Et aujourd'hui, on est complètement sclérosé là-dedans. Très honnêtement, tout ce qu'on voit depuis des semaines et des mois, ce qu'on voit au Parlement, on voit que ces gens fonctionnent en vase clos. Et de l'autre côté, il peut y avoir autant de colère populaire que l'on veut, autant de revendications populaires. On voit qu'elles n'arrivent pas à percer le mur des institutions. Donc, si on veut que la légitimité, que les légitimités se rejoignent, eh bien, il va falloir résoudre ce problème. Le deuxième aspect qui rejoint la deuxième partie de votre question, c'est très séduisant effectivement ce programme à minima et pour quelqu'un qui croit une démocratie complète et qui fait complètement confiance à la souveraineté populaire, je serais tenté d'aller vers ça. Sauf que et je reviens au terme de légitimité, on va avoir malgré tout, si on vient sur la base d'un programme aussi minimal, un problème de légitimité. Pourquoi ? Parce qu'en France, le terme de légitimité, il n'est apparu qu'au XVIIe siècle. Et il est apparu en la qualité de ce qui est juste. la qualité de ce qui est juste, c'est-à-dire que la légitimité, dès le départ, elle est liée à un contenu. Donc, on ne peut revendiquer derrière une légitimité que dès lors qu'il y a un accord qui est formé sur un contenu. Là, on peut simplement observer que la légitimité est ou n'est pas accordée, mais on ne peut pas déclarer par principe que quelque chose est ou n'est pas légitime. Voilà. Donc, je crois que il y a besoin malgré tout aujourd'hui de convaincre sur des contenus qui soient pas maximalistes, mais qui ne soient pas minimalistes, qui ne soient pas minimalistes non plus. Je crois que ce serait un raccourci trop rapide qui serait au final une impasse.
Merci beaucoup. Donc, réforme des institutions parlementaires, Christophe. Parce qu'en fait, François, il faut que tu saches que c'est un vieux débat que j'ai avec Christophe là-dessus. Mais on n'avait pas encore vu l'angle de la légitimité, donc ça nous donnera encore une nouvelle piste de réflexion. Puisque cet angle de la légitimité, on l'a notamment évoqué lors en fait d'explications sur l'article 53 de la Constitution vis-à-vis de l'accord avec l'Ukraine. Et le fait que des interprétations de juristes peuvent être considérées comme illégitimes sous le prisme de Christophe, ce qui renvoie un peu à sa réflexion vis-à-vis de la démocratie. Mais du coup, grâce à toi, nous allons encore faire avancer le débat. Donc merci beaucoup. Avant de donner la parole à Fabrice, je vais poser une question féminine. Les questions précédentes émanaient également de femmes. N'ayez pas peur de monter, mesdames. Donc la question est, quel est ton avis sur la récente déclaration de François Hollande qui, il y a 8 heures, tweetait « Comment admettre que la France soit en 15e position en matière de soutien à l'Ukraine ? Cette guerre est une guerre contre nos valeurs, nos intérêts, nos modes de vie. Il est vital que l'Ukraine la gagne pour que demain, nous n'ayons pas à la faire. » C'est un article qui est paru en ligne, donc tu l'as pas forcément lu, mais voilà la question qui t'a été posée. Poser si tu as, je sais pas, envie d'y répondre, enfin voilà.
François Hollande, c'est bien celui qui avait répondu à une fausse interview en disant qu'en réalité, dès 2014, il savait qu'il allait y avoir une guerre en Ukraine et l'envahissement, mais qu'ils avaient volontairement détourné les yeux. C'est bien ça, c'est bien la même personne dont on parle aujourd'hui, celui qui finalement, quand il était en responsabilité, a décidé de ne pas agir et qui aujourd'hui vient faire un petit peu la leçon là-dessus. Non, moi, de ce point de vue-là, sur la question de la guerre en Ukraine, je crois qu'il faut se garder aujourd'hui de pousser à la roue et qu'il faut absolument chercher une solution de sortie de crise. Ce qui était la position initiale, il faut le dire, d'Emmanuel Macron au moment de l'invasion en 2022, qui est une position qu'il a abandonnée parce que finalement, il s'est aussi retrouvé isolé au sein du clan des Otaniens sur cette question-là. Je crois qu'on ne sortira pas de cette guerre avec un vainqueur d'un côté et une situation nette qui permettrait de faire quoi que ce soit. On voit que sur le terrain, il y a des dizaines de milliers de morts, on parle de centaines de milliers de morts. Il ne sortira rien de la poursuite des affrontements. Je ne sais pas où veulent nous amener ces gens, en fait, aujourd'hui. Je vois bien les enjeux qui sont les enjeux du complexe militaro-industriel. Je vois bien les enjeux qui sont les enjeux de puissance de l'économie américaine qui essaie de se refaire à la cerise sur le dos des Européens. Je vois bien les enjeux des industriels français et d'autres pays qui sont en train de préparer la reconstruction de l'Ukraine. Pour le reste, ce que je vois, c'est que finalement, nous sommes un îlot, nous autres, Français et les Otaniens, dans cet océan terrestre, à ne voir dans cette guerre que la bataille entre le bien et le mal. Les autres y voient des enjeux géopolitiques d'intérêt, tant les États-Unis que la Chine, que la Russie, que les autres pays. Et finalement, on est bien les seuls à se servir de ces pauvres Ukrainiens, finalement, pour essayer de refonder une situation géopolitique dès lors que la nôtre, cette chute de l'Occident qu'évoquait Emmanuel Todd dans son dernier bouquin et qu'il évoquait déjà avant puisque quelqu'un a évoqué Emmanuel Todd et aujourd'hui la situation à laquelle il faut se résoudre, mais on ne se sortira pas de cette situation du déclin de l'Occident en continuant à avoir des œillères et en faisant comme si la situation était celle d'il y a 20 ans ou 30 ans. Tant qu'on restera dans le modèle qui est celui que Monsieur Macron a donné lors du discours de la Sorbonne que j'ai évoqué au début de cette émission et qu'il dit qu'il y a trois blocs, la Chine d'un côté, les États-Unis de l'autre et l'Union européenne en troisième ressort, eh bien cette vision n'est plus la situation du monde d'aujourd'hui. L'ensemble des pays de la planète ne veulent pas être rattachés à l'un de ces trois blocs. Ils veulent pouvoir continuer à faire affaire ou à faire affaire économique ou à faire géopolitique ou à faire politique tout court avec l'un sur une question, avec un autre sur une autre et avec le troisième en dernier ressort. Autrement dit, nous ne sommes plus simplement dans les deux blocs, nous ne sommes même pas dans un monde multipolaire, nous sommes en train de basculer dans un monde apolaire et les seuls qui ne l'ont pas compris, ce sont les Européens.
Merci beaucoup. Je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Je vous ai mis dans la bulle la Constitution allemande et l'Europe, qui est un rapport sénatorial suite à l'arrêt du 30 juin 2009 que François a évoqué tout à l'heure. Comme ça, vous pourrez aller le lire. Je pense qu'il a répondu à la question de la personne qui l'a mis dans la bulle. Donc, je vais donner la parole à Fabrice, puis à Christophe. Puis ensuite, j'aimerais, pour terminer ce space, puisqu'on arrive au bout du temps, qu'on efface quand même, si ça ne te dérange pas François, un point sur ce qui s'est passé avec les agriculteurs, parce qu'il me semble que c'est important, c'était dans l'actualité, et que Emmanuel Macron a eu des prises de parole assez violentes en ce qui me concerne. Donc voilà, ça sera, c'est un peu l'historique de la fin de ce space. Si vous voulez prendre la parole, j'accepte encore peut-être une ou deux mains en plus des trois qui sont là, mais pas plus. Et sachez que nous parlerons donc, on posera des questions sur le salon de l'agriculture et les agriculteurs, toujours dans le prisme perspective européenne. Voilà, alors Fabrice, c'est à toi. Tu es timé, tu as 5 minutes grand maximum sur le sujet. On t'écoute.
Bon, eh bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir François. Je vous découvre ce soir, donc c'est avec grand intérêt que j'ai entendu votre intervention. À plusieurs reprises, j'ai été un peu, surpris de certaines réponses, mais bon, je me suis dit, c'est la démocratie, donc c'est intéressant, en tout cas, d'écouter différents points de vue, dont le vote que je ne connaissais pas. En l'occurrence, sur la toute dernière question qui était soulevée vis-à-vis de ce qui concerne l'Ukraine et la Russie. Moi, pour le coup, j'aimerais avoir une question un peu plus large, parce qu'on parlait de loi et de légalité tout à l'heure. Donc, j'aimerais avoir votre avis sur le principe de l'autodétermination en conflit avec l'intégrité territoriale. Autrement dit, au-delà de toutes les considérations que l'on peut porter au conflit Ukraine-Russie qui sont liées, on va dire, au malheur de la boucherie, bah, la question, à un moment donné, que je me pose, c'est comment trouver un juste milieu entre les volontés de chacun, de chacune des parties prenantes. Et pour moi, c'est très, très, très compliqué. Donc, j'aurais aimé avoir votre avis, à vous, pas d'un politique lambda, mais à vous, de savoir comment vous, voyez une sortie de crise entre du coup la partie de l'Ukraine qui est pro-européenne, la partie de l'Ukraine qui est pro-russe, la Russie qui elle de son côté joue ses pions, ce qui est tout à fait logique, et l'OTAN qui joue ses pions, avec là-dedans du coup l'Europe de la défense qui cherche sa voie également parce qu'il faut bien qu'elle se défende, en tout cas qu'elle puisse se protéger. Donc, comment vous voyez les choses avec les multiples tensions, on va dire, qu'elles soient sécuritaires, alimentaires ou autres, en cours. Voilà, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Merci.
Écoutez-moi, là aussi, je ne vais pas faire de langue de bois. Je crois que tout le monde connaît le point d'atterrissage depuis maintenant des mois et même des années sur cette situation. On voit bien comment tout ça peut se terminer. Tout ça ne peut pas se terminer par l'envahissement de l'Ukraine et de l'Europe et la prise de Paris par des chars russes. Tout le monde en a bien conscience. Enfin, la Russie a envoyé au début
de l'offensive. Non, monsieur, je suis désolé, pas tout le monde. Ne prenez pas votre
pensée. Alors, je t'explique, Fabrice, la règle. C'est l'invité de l'émission, donc certainement pas tu lui coupes la parole.
Je suis d'accord, Lilou, mais à mon avis, je suis désolé, personne n'a pas partagé du principe que son point de vue est le même point de vue.
Donc, tac.
parce que je suis extrêmement colère si vous manquez de respect aux invités de l'émission. Donc tu es en auditeur, tu vas avoir une réponse à ta question, tu peux déjà t'estimer heureux, mais vous ne manquez pas de respect aux invités de l'émission. Voilà. On n'a pas besoin de trollage, et non, il ne donne pas son point de vue, ce n'est pas n'importe qui, et ça, dans l'espace, il faut aussi que vous commenciez à l'entendre. Merci. Excuse-nous, François, tu peux reprendre, merci.
Ouais, non, écoute, c'est effectivement, peut-être pas tout le monde, mais alors le discours de ceux qui veulent croire que la Russie va envahir l'ensemble de l'Ukraine et puis avancer au sein de l'Europe jusqu'à on ne sait pas où, hein, quand on entend Monsieur Le Drian nous dire que l'Ukraine est la dernière ligne de défense, ou plutôt la première ligne de défense de l'Union européenne. Bon. Tout ça est bien évidemment quand même très très exagéré. Je rappelle que la Russie a déployé entre 100 et 120 000 soldats lors du début de son offensive en Ukraine. Vous voyez bien que c'est pas une armée à même d'occuper un territoire aussi vaste que celui de l'Ukraine. C'était pas ça l'enjeu. Donc on voit bien que le point d'arrivée, si on est sérieux, ne peut pas être celui-là. Mais on ne peut pas faire aussi comme si cette guerre avait débuté il y a 2 ans, quasiment jour pour jour. Cette guerre a débuté en 2014. Moi, je vous invite sur ce sujet. Je viens de lire un très bon polar là-dessus qui s'appelle Donbass, qui au-delà du polar lui-même, et dresse un très joli tableau des sociétés, de la société ukrainienne, à la fois dans ce qui était à l'époque, en 2014, et les années qui ont suivi, le flanc séparatiste et puis le flanc de ceux qui restaient pro-ukrainien et pro-Kiev et pour beaucoup pro-européen, et qui permet quand même de bien comprendre ce qu'étaient les enjeux sur le moment. Et on voit bien que ce pays est déchiré, et que ce qui s'est passé à Maïdan a déchiré le pays en lui-même. Et si vous y rajoutez la vision qui était, si on se déporte, la vision russe du positionnement de l'OTAN, tout ce qui a présidé à l'invasion de l'Ukraine que nous avons connue. Donc on voit bien que il n'y aura pas de défaite de la Russie, mais il ne peut pas y avoir non plus de défaite de l'Ukraine. Les deux sont exclus, et les deux sont à exclure. Donc on voit bien qu'il va y avoir un gel aujourd'hui, aujourd'hui non, mais demain oui, et peut-être le plus tôt possible. À un moment donné, quand même, il faut essayer de trouver une solution de paix pour pas que les gens continuent à mourir sur le front comme c'est le cas aujourd'hui, et à souffrir comme c'est le cas en Ukraine. Il va y avoir une situation qui va être une situation de gel sur les provinces du Donbass, Lugansk et de la Crimée. On ne sortira pas de la situation autrement. Donc pourquoi continuer à prolonger cette guerre, sinon pour les enjeux qui sont ceux que j'ai évoqués tout à l'heure? Il me semble que le point d'arrivée finalement est assez simple à trouver. Ce qui manque aujourd'hui là-dedans, c'est qu'il manque de la volonté politique. On peut pas reprocher à Monsieur Zelensky et aux Ukrainiens de vouloir reconquérir l'ensemble de leur territoire. Mais est-ce que ça correspond aujourd'hui à une réalité possible et envisageable? Est-ce qu'on n'aurait pas besoin que sur la scène internationale, des acteurs se positionnent, et plutôt que de fournir des armes et de créer les conditions de la poursuite de la guerre, n'essaie pas de trouver une solution de sortie de crise? Moi, je crois que c'est ça qui manque depuis le début. Enfin, dans ce conflit, on n'a jamais eu des mobilisations tant politiques que même populaires pour appeler dès le départ à la paix. Dès le départ, ça a été un combat manichéen entre le bien et le mal. Bah, ça, c'est pas de la géopolitique. Ça, on se fait plaisir à bon compte. C'est de la politique pour les chaînes d'information en continu. Mais c'est pas comme ça qu'on résoudra le problème.
Merci beaucoup. Donc, on continue. Alors, il est parti parce qu'il était colère, mais il a ce comportement de manière systémique. Et merci d'avoir répondu pour l'Assemblée. On va donner la parole à Souvrenix. Bonsoir, Souvrenix.
Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Très intéressant. Il y a deux nouveautés ce soir. Je pense que les personnes qui ont écouté l'espèce depuis le début ne sont pas au courant. Moi, j'ai pas écouté complètement. Il y a Macron qui a été interviewé par le Figaro. Et après tout ce qu'il a promis, il demande maintenant aux agriculteurs de lui faire des demandes concrètes. Connaissant le personnage, je pense que ce sera pour lui l'occasion de dire à chaque fois que c'est pas possible. Et puis la deuxième chose, c'est que il convoque pour je sais plus quel jour, dans la semaine prochaine, je crois, plusieurs dizaines, c'est le terme exact, de présidents de pays différents et de responsables, je crois aussi militaires, afin, entre autres, de donner un nouveau cap à la France. Alors, je sais pas, j'ai un petit peu peur, là, enfin un petit peu peur. Ouais, je m'inquiète. Donc voilà les deux nouveautés. Je sais pas si l'invité est au courant, ce qu'il en pense. Parce que moi, je pense que il est aussi dangereux qu'un islamiste. Vraiment, hein. Je le dis comme ça, je le pense. Je l'ai écrit même, hein. Donc, il est tout aussi dangereux, vraiment, hein. Voilà ce que je voulais dire. Donc,
la question, c'est, ça porte sur.
Est-ce qu'il aurait des commentaires sur quel est son point de vue sur les idées dont parle Macron en ce moment-là?
Pour le rendez-vous demain, ouais, où il convoque plusieurs pays européens pour prendre des décisions vis-à-vis de la situation ukrainienne, sachant qu'il vient quand même
un nouveau cap pour la France.
Oui, mais parce que en fait, si tu étais là lors du Space de vendredi, je vous ai expliqué que l'accord bilatéral n'était qu'un hors-chapeau, et là c'est la suite, d'accord? Parce que on n'était pas sur les mêmes objectifs. Et là, tout à l'heure, quand il s'est exprimé, il a bien dit qu'il y avait des nouveaux objectifs, et c'est ça qui va dérouler, et c'est pour ça qu'il a convoqué d'autres pays européens. Enfin, en tout cas, à mon sens. Mais donc, parce que François a déjà bien répondu sur le conflit ukrainien, donc on va essayer de dire donc l'avis sur la convocation et la réorientation des objectifs de la France vis-à-vis de l'Ukraine, c'est ça?
Ah, je suis pas certain que ce soit uniquement sur l'Ukraine.
D'accord. Bah, en tout cas, bon, je vais le laisser répondre, mais merci, Souvrenix.
De rien. Bonne soirée. À plus tard.
Ouais, peut-être que je vais justement répondre sur ta première partie de question, en fait, parce que là, tu m'apprends que Macron dit qu'il va faire qui demande aux agriculteurs de lui faire des demandes concrètes. C'est, en termes de politique intérieure, c'est peut-être plus là que ça se joue. Et effectivement, ce qui se passe là, c'est directement la conséquence de la journée désastreuse qu'il a connue au salon de l'agriculture vendredi et samedi. Hein, les deux journées ont été apocalyptiques d'un point de vue politique pour lui. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que jusqu'ici, quand il était confronté à des crises ou à des mouvements populaires d'ampleur, ça a été le cas avec les Gilets jaunes, avec la réforme des retraites, avec la crise agricole même fin janvier ou début février, il avait utilisé une échappatoire. L'échappatoire qu'il avait utilisé, c'était une forme de verticalité de la parole présidentielle ou exécutive, mais qui se déversait sur un public qui était parqué ou captif, un petit peu comme lors des grands débats avec les Gilets jaunes, ou lorsqu'il y avait les spectateurs pendant la crise du Covid, dans une forme à chaque fois d'affrontement un peu symbolique. Vous vous souvenez, il disait « nous sommes en guerre ». Voilà. Et ce qui s'est passé au moment du salon de l'agriculture, c'est qu'il a voulu faire exactement la même mise en scène communicationnelle. Vous avez en tête qu'il avait l'idée de faire un débat au milieu d'un ring, tout ça était exprimé même assez clairement. Sauf que là, pour la première fois, réellement, patatras. Donc là, il se retrouve un petit peu pris au dépourvu, parce que ce qui a été sa stratégie communicationnelle lorsqu'il était confronté à une crise depuis 2017, pour la première fois, n'a absolument pas marché à l'occasion de ce salon de l'agriculture et même a eu des effets qui vont être, à mon avis, des dommages collatéraux à long terme qui vont être extrêmement importants pour lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas d'idée en réalité. Quand je t'entends dire qu'il a demandé aux agriculteurs de faire des demandes concrètes, finalement on en revient à l'épisode des Gilets jaunes, mais on en reviendra toujours à l'épisode des Gilets jaunes parce qu'il est structurant en réalité dans notre vie politique désormais. Les demandes concrètes, elles avaient eu lieu au moment du débat des Gilets jaunes. C'était les cahiers de doléances, souvenez-vous. sauf que les cahiers de doléances sont restés totalement inexploités, restent en grande partie inaccessibles, et donc là on va avoir un phénomène qui va être un phénomène à peu près de la même ampleur. Un dernier mot là-dessus, parce que j'avais entendu qu'on allait évoquer la question de l'agriculture tout à l'heure, je parlais des dégâts collatéraux pour Macron. Il va y avoir un autre dégât collatéral, c'est que Macron est en première ligne, mais il l'est souvent, mais jusqu'à maintenant il était en première ligne en tant que gardien du temple un petit peu, là pour le coup c'était lui qui était dans la grande ligne de défense. Et ben là on se rend compte que lors de cette crise agricole, là aussi pour la première fois, et ça va être un élément extrêmement important dans mon avis jusqu'à la fin du quinquennat, eh bien il y a une forme d'inversion des rôles un petit peu, ou en tout cas d'inversion, j'allais dire, des légitimités, non parce que c'est pas le terme approprié, mais d'inversion de la perception de l'exécutif dans l'opinion. Quoi qu'on pense de l'opération de communication de Gabriel Attal fin janvier début février à l'occasion du mouvement de colère des agriculteurs, il a réussi malgré tout à gagner du temps et a donné une clause de revoyure qui était au salon de l'agriculture. Et d'ailleurs, Gabriel Attal a poursuivi son entreprise de communication en allant la veille de l'ouverture du salon de l'agriculture sur un marché en Charente-Maritime, si je ne dis pas de bêtises. Et alors que Gabriel Attal a eu finalement une gestion qui répondait pas aux demandes, hein, ou qui ne répondait qu'à moitié aux demandes, si l'on en croit les agriculteurs, il apparaît malgré tout comme celui qui a traité, tant bien que mal, la situation. Il a passé ensuite la main au président de la République, qui est arrivé, lui encore, comme un va-t-en-guerre au salon de l'agriculture, et qui, pour le coup, a ramassé une volée de bois vert. Donc ce n'est plus, contrairement à ce qu'on a connu depuis début 2017, le Premier ministre qui est en train de gérer les affaires courantes, qui se prend les pieds dans le tapis, et c'est le président de la République qui vient ramasser derrière avec une figure de surplomb, mais on a pour la première fois une forme d'inversion au sein de l'exécutif. La seule fois où une forme d'inversion était un petit peu apparue, c'était à la fin de la crise du Covid. Cette inversion commençait à apparaître et Macron l'avait aussi peu supporté qu'il avait assez vite démis son premier ministre de l'époque. Là, il n'est pas en capacité de le faire et il risque pas de le faire dans les semaines et mois qui viennent du fait de différentes caractéristiques qui tiennent notamment à celles de son premier ministre. Mais ça crée une situation extrêmement nouvelle à la tête de l'État. Désolé, c'est un petit peu tambouille politicienne tout ça, mais il me semble que l'épisode du salon de l'agriculture, et puisque l'invitation m'était faite d'en parler, va être assez lourde d'enseignements et de conséquences pour les mois à venir.
Non, au contraire, c'est pas du tout tambouille, c'est réel, et c'est ça que j'adore. Merci beaucoup, parce que ça permet à tout le monde de voir en fait l'enjeu de la communication, hein, parce que moi, la botte de paille avec Gabriel Attal, elle est très mal passée. Par contre, en effet, j'ai tout de suite compris que le but, c'était juste de renvoyer à plus tard. Et c'est pareil aussi, il a fait ce qu'il adore faire aujourd'hui en remettant en cause directement ses ministres sur leurs évocations, notamment vis-à-vis des prix planchers, ce que j'ai trouvé encore abusé. Et ensuite, visuellement, le fait d'avoir quand même énormément de CRS, la BRAVEM, qui ne vient jamais en réalité en interne dans des établissements ou sur des manifestations au milieu des animaux qui plus est, c'est vraiment communication, on va dire, très catastrophique pour un gouvernement qui quand même se base beaucoup sur les effets de manche. Et ça permet vraiment de voir à quel point c'est central dans le déroulé. Donc maintenant, merci, vraiment merci beaucoup pour ces explications-là. Et comme ça, pour tous ceux qui se posent des questions justement sur les interventions du président, qui ont l'impression qu'il squeeze tout le monde et que finalement il veut être l'hyper-président, je pense qu'il y a de ça, mais je pense aussi qu'il y a des plans qui sont mis en place qui foirent. Et typiquement là, ça a foiré à 100%. Et je veux juste dire, puisque étant moi-même parisienne, que la veille au soir, les tracteurs étaient dans les rues. Voilà. Mais ils étaient pas, il n'y avait pas juste 10 tracteurs, ils étaient partout. Et lorsque dans les médias on disait que non, il y avait très peu de tracteurs, que tout se passait très bien, c'est faux, c'est archi faux. Ils voyaient la tour Eiffel de leur tracteur. Et c'est gravissime d'un point de vue notamment de la sécurité publique, hein, puisque c'est ça, hein, c'est pour ça qu'on envoie après les forces de l'ordre. Il faut qu'il y ait garantie de la sécurité publique. Ils étaient à vue de tour Eiffel. Et non, ça ne se passait pas bien. Et je peux vous garantir que les agriculteurs, ils étaient extrêmement bien organisés et que bien sûr, ça a foutu un soupe pas possible dans Paris. Mais ça, c'est pas grave, à la limite. Mais personnellement, je me suis dit, voilà, encore une fois, on a douté. On s'est dit que ces personnes-là n'allaient pas faire ce qu'ils ont fait. Un peu comme lorsqu'ils sont arrivés à Rungis à pied, en utilisant une astuce pour expliquer qu'en tant qu'agriculteur, ils avaient la possibilité d'aller à Rungis une fois par an, donc à pied sans leur tracteur. Ils sont très bien organisés et là, ils ont marqué des points. Je dis ça pour les gens qui me disent « Oh, les agriculteurs, ils ont lâché l'affaire ». Pas du tout. Ce qu'ils ont fait là, malheureusement, ils ont pris des coups aussi, mais ils se sont vraiment défendus jusqu'au bout et il faut les louer pour ça. Même si vous le savez que je suis une puriste de la sécurité et de la salubrité publique. Bref, je ferme la parenthèse. Je ne prends plus de débatteurs, plus de questions non plus. Si vous avez vraiment une dernière question, vous la mettez dans la bulle, mais sinon il n'y aura plus d'oralité, puisque nous sommes à 10 minutes de la fin, et on va finir avec Conrad, Christian et Christophe, tu auras le mot de la fin. Enfin, la question de la fin. Voilà. Allez Christian, à toi.
Désolé, j'étais en train de répondre à MP. Oui, je vais chagriner un peu Lilou parce que je sais qu'elle est très orientée, pensée positive, good vibes et compagnie, donc je vais la taquiner un peu. Il n'a pas été du tout évoqué que face à cette espèce de déliquescence et l'instabilité des différents blocs qui sont en place, la réponse soit autoritaire. Et on a quelques raisons de penser que c'est une hypothèse qui est possible. Je voudrais savoir si vous lui accordez du crédit ou pas du tout. Et je pense d'une vraie réponse autoritaire d'un système qui veut se maintenir et qui, n'ayant plus le moyen de le faire par la séduction, s'en rend compte et se donne libre cours, encore plus qu'il ne le fait maintenant, à tout ce qu'on peut trouver dans l'autoritarisme.
Oui, moi je crois. Enfin, moi je c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que je crois qu'il y a deux portes de sortie à la démocratie minoritaire. J'ai dit que c'était une séquence qui est instable et donc qui va être nécessairement très courte dans le temps. La réponse, soit on ça arrive à tenir jusqu'aux élections suivantes et les élections suivantes permettent de donner une porte de sortie. J'ai dit il y a deux portes de sortie. Soit on arrive à reformer une majorité avec souvent l'extrême droite en rôle d'arbitre ou de participant, soit on va vers les majorités grands chapiteaux, c'est-à-dire des majorités hétéroclites, ou en tout cas des coalitions hétéroclites qui n'ont plus de ligne politique directrice, soit, si c'est pas le cas, on va vers des pouvoirs qui font le choix de se maintenir en place par une forme d'autoritarisme, qui est un autoritarisme à la fois institutionnel, mais aussi dans le maintien de l'ordre. Et aujourd'hui, la situation française donne à voir ces deux aspects-là, pas encore dans leur dimension paroxystique, parce qu'on peut et le pouvoir peut aller encore plus loin dans ces aspects-là, mais malgré tout, des dérives sur ces deux aspects. Sur l'aspect institutionnel, il suffit de penser à la manière dont les biais institutionnels et constitutionnels sont autorisés. Je pense notamment à l'usage à répétition du 49-3, mais également la manière dont sont menés les débats désormais dans l'enceinte parlementaire. Et en dehors du champ institutionnel, c'est la manière dont chaque mobilisation populaire est désormais encadrée. Il y a une rupture qui s'est opérée. Cette rupture s'est opérée le 1er mai 2016. Moi, je suis capable de la marquer. La manière dont les forces de l'ordre ont encadré la journée et la fête du travail le 1er mai 2016 a donné le coup d'envoi à la manière dont chaque mouvement populaire et chaque mobilisation sociale a ensuite été traité, dans un premier temps par la fin du gouvernement Hollande à propos des lois El Khomri et Macron, puis ensuite par les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron, que ce soit le mouvement de la SNCF en 2018, que ce soit les Gilets jaunes fin 2018 et 2019, que ce soit même le mouvement des retraites, la manière dont on corsette la capacité populaire, parce que la capacité massive populaire rejoint le fait majoritaire d'une certaine manière. Et donc, il y a besoin de soustraire cette image de la puissance et de la force majoritaire pour pouvoir laisser aller et continuer à laisser aller des gouvernements qui n'ont eux qu'une assise minoritaire.
Je vous remercie. C'est bien de le rappeler parce qu'on le pose souvent comme étant un risque venant uniquement de l'autre bord, qui est celui dont vous avez parlé en premier. Et je pense qu'on ne parle pas assez de celui qui est actuellement au pouvoir et de sa capacité à mettre en place et déjà œuvrer de telle manière à quelque chose qui relève de l'autoritarisme le pire.
Mais je reste quand même positive.
Good vibes.
Oui, bah il faut bien dire aux gens que non, on ne va pas mourir. On va, au contraire, on va se battre. Révolution douce, je vous l'ai dit. En tout cas, j'essaie de le prôner. Mais je suis d'accord, Christian, et merci François. Conrad.
Oui, François. Donc, je profite de l'occasion que Lilou a mis de rapprocher donc les faits et l'actualité pour les dernières questions. Pour rebondir, là, cette fois-ci pas sur celle de notre divin tyran, mais sur la réaction de son sinistre de l'économie et des finances, qui, en revenant de Gand, a annoncé avec charisme qu'il souhaitait mettre les mains sur les économies des Européens et des Français pour, au nom de la souveraineté nationale, construire un plan européen avec des pays pour pouvoir réinvestir, et notamment sur la transition écologique, plus un certain nombre de sujets. Bref, grosso modo, c'est piquer l'argent des contribuables pour aller dans le sens du fédéralisme et en se servant de la musicothérapie de la souveraineté. Alors moi, ce fait, alors déjà d'une part, le fait, vous avez tout à fait compris que j'adhère à 100% à ce qu'il vient de dire, en second degré, mais ce qui me fait très peur dans ce sujet-là, c'est qu'on se rend compte, déjà d'une part, il a avoué le fait que l'Europe était incapable de réagir avec la bonne échelle de temps à des problématiques concrètes, hein, puisque nous sommes confrontés à une situation où nous sommes désindustrialisés, nous avons des problèmes majeurs en termes d'agroalimentaire, etc., etc. Il faut apporter des réponses et que l'Europe, finalement, ne trouve pas les moyens. Que le seul moyen qu'il ait, c'est de réussir à trouver une tambouille juridique de manière à trouver un accord sur lequel s'appuyer pour pouvoir faire passer une loi qu'il voterait avec un petit groupe de pays, à Mathusalem, donc, échelle très lointaine, pour essayer de nous en sortir si nous en sommes encore vivants. Entre-temps. Donc, grosso modo, ça veut dire que ce brave monsieur, donc on n'a pas l'instrument politique au niveau de la fédération qui nous permet de l'Europe qui nous permet d'être réactif, que ce monsieur envisage un plan qui est une usine à gaz nous permettant de pouvoir répondre demain à la question auquel on aurait dû répondre hier, et qu'il se satisfait de ça. Et d'autre part, il est obligé de créer un groupe de petits pays sur lequel il va compter pour nous piquer nos ressources. Donc ça, plus le fait qu'il veut nous piquer nos ressources. J'aimerais connaître votre point de vue, votre analyse, et savoir où est-ce que je me suis trompé. Vous avez 4 heures.
Non, on l'a perdu de nouveau.
Oh merde. Oh non.
T'avais fait un super exposé en plus, tu sais.
Purement improvisé, ah, je suis incapable.
Ça y est, on l'a.
Alors, je suis désolé parce que je me suis déconnecté 2 fois et reconnecté 2 fois parce que j'avais perdu le son.
Alors, est-ce que je recommence à zéro la question ou alors il y a un morceau où vous vous rappelez?
Non, honnêtement, j'ai rien entendu depuis le début de l'intervention. J'ai tout zappé, donc bon, je peux faire un numéro pour faire semblant, mais alors, ce serait pas sympa.
Faites le tour de votre téléphone dans le sens des aiguilles d'une montre, ça va conjurer mauvais sort, et je pose la question dans le bon sens. Donc, on a, alors comme c'était de l'improvisation, je suis pas sûr que j'ai retrouvé tous les mots. On a notre cher sinistre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui en revenant de Gand, a pris son regard le plus leadership pour nous annoncer fièrement que l'Europe à 27 était incapable de trouver une réponse à une problématique à laquelle nous sommes confrontés, c'est-à-dire le problème de la transition écologique plus les problèmes donc que nous avons d'industrie et aussi d'alimenter les Français, et que pour ça il allait essayer d'inventer un biais juridique de manière à pouvoir trouver un support sur lequel s'appuyer et réunir un certain nombre de pays, il connaît pas le nombre de pays, pour réussir à nous piquer les économies des Français et des Européens, et tout ça bien sûr avec une sauce marketing de souverainisme, mais dans le but de travailler toujours plus dans le sens du fédéralisme. Donc, plusieurs interrogations. Donc, moi, je suis arrivé à la conclusion suivante. Un, on a un instrument européen qui ne permet pas de répondre en temps et en heure aux problématiques auxquelles nous sommes confrontés. Que de deux, ce brave monsieur nous invente une usine à gaz nous permettant de répondre peut-être demain, quoi, de trouver demain peut-être le support juridique à la question à laquelle nous aurions dû répondre hier. Et de trois, ces gens essayent de nous piquer nos économies et tout, etc., pour des projets qui vont dans le sens de la fédération ou, comme on l'a vu à chaque fois qu'on s'est inscrit dans un projet européen pour le fédéralisme avec Macron, c'était un transfert vers l'Allemagne et vers les autres pour avoir preuve de bonne gageure et de bonne, comme quoi nous étions les meilleurs élèves. Donc finalement, ne risquons-nous pas de nous appauvrir définitivement avec plus aucune ressource qui nous permettrait de pouvoir assumer le jour où on voudrait assumer des projets souverains de réindustrialisation? Et que pensez-vous donc de la démarche qu'il a prise? Est-ce que c'est quelque chose qui est dangereux? Est-ce que c'est quelque chose qui va se faire? Et est-ce que mon interprétation plutôt pessimiste des capacités de ce monsieur, donc que je surnomme Attila de Bercy, à pouvoir sauver la France est bonne, ou alors ce monsieur malheureusement nous envoie droit dans le mur?
Non, je crois que...
Et je disais, vous n'avez pas 4 heures.
Ouais, non, mais justement, je fais très vite, désolé, hein, pour les soucis techniques. Je crois que c'est la même démarche que celle à laquelle on est confronté depuis le début avec Macron, c'est-à-dire que c'est une volonté de dépassement du cadre national et de construction d'un échelon européen à marche forcée. Et la manière dont cet échelon européen se construit, c'est toujours d'abord par le biais de l'économie, et à travers l'économie, ça a été par le biais de la monnaie. Là, ce qu'on veut nous faire avaler, une fois encore, c'est la mise en place d'un outil de financement européen qui présuppose, donc, à partir de là, un corps, non pas cette fois politique, mais un corps économique commun qui serait constitué de l'ensemble des citoyens de l'Union européenne, et donc on acte le fait que les citoyens des différents pays, les épargnants des différents pays de l'Union européenne, sont un même corps économique qui est prêt à mettre au pot là-dessus. C'est exactement la même démarche que le principe, par exemple, des listes transnationales quand, en éteignant les souverainetés, les citoyennetés nationales, ont créé une citoyenneté, une forme de citoyenneté commune qui elle-même aurait conduit à une forme de nationalité qui serait la nationalité européenne, voilà, d'une certaine manière. Ben là, c'est la même chose d'un point de vue économique. C'est ça que fait le maire. À côté de ça, ce que fait le maire aussi, c'est il essaie de chercher une réponse à une impasse économique dans laquelle il est. Enfin, cet homme-là nous avait dit qu'il allait mettre la Russie, à l'économie russe à genoux et que nous portions le mieux possible. Sauf que toutes les dernières prévisions de croissance, mais également de taux de chômage, de balance commerciale, tout ça est désastreux. Et donc, il n'a plus de ressort au sein de notre pays parce qu'il ne veut pas se donner les marges de manœuvre pour avoir des ressorts, et donc il essaie de chercher une solution à l'Union européenne profitant des élections européennes. Finalement, ces gens-là, ils fonctionnent avec un calendrier électoral, et puisqu'il y a des élections européennes, pourquoi pas essayer de proposer une solution farfelue qui sera celle-ci, et parce que ça cadre avec une idéologie globale à laquelle ils sont attachés. Je crois que tout ça n'amènera absolument à rien, tout ça sera absolument irréalisable. Après, d'une certaine manière, je serais tenté de dire, mais qui écoute encore Bruno Le Maire, honnêtement, sur la scène politique française ou sur la scène économique internationale? Je crois plus grand monde. C'est du verbiage, c'est tout.
Vous nous rassurez par cette dernière phrase. Donc, parce que j'étais arrivé à peu près à la même conclusion que vous, et que ce brave monsieur se servait donc de la forge européenne pour diluer son incompétence et son manque de vision stratégique. et donc il venait fondre tout ça pour en passant tout ça dans le fédéralisme et en nous embarquant là-dedans. Mais vous nous rassurez un petit peu en disant que finalement il n'y a que nous qui nous inquiétons de ces paroles, mais que sur la scène politique et sur les scènes des dirigeants nationaux comme internationaux, ce brave monsieur n'a plus aucun poids. Donc c'est une coquille vide. Et c'est la seule note d'espoir que j'ai parmi les décisions que j'entends. Puisque malheureusement, quand on a entendu parler aussi il y a de quelques mois, quand il parlait au niveau de la BCE, de l'euro numérique, qui serait une monnaie qui serait donc versatile et surtout qui serait éphémère, et qu'on voit différentes choses, donc la mainmise qu'ils veulent mettre sur nos économies et nous transformer de citoyens vraiment en consommateurs qui n'aura pas d'autre salut que de rester consommateurs, ça fait excessivement peur.
Merci beaucoup François, merci Conrad. Moi ça fait très longtemps, je crois depuis sa nomination, que je n'écoute pas Bruno Le Maire. Voilà, mais ça c'est personnel. C'est la première fois que je le dis d'ailleurs. Christophe, ouf, le mot de la fin, Christophe, vas-y, la question la dernière.
Rebonsoir Monsieur Coq. Je vais vous poser deux questions, en fait c'est la même, posée de deux façons différentes. Êtes-vous d'accord avec l'affirmation qu'en démocratie, le peuple n'a ni tort ni raison, le peuple décide? Et la deuxième question qui est la même, êtes-vous favorable dans votre programme politique futur ou dans vos soutiens à des candidatures politiques à introduire le référendum d'initiative citoyenne dans la Constitution française comme les Suisses, les citoyens suisses en disposent, c'est-à-dire un système par lequel les citoyens peuvent eux-mêmes déclencher un référendum, à la fois pour pouvoir changer les lois, annuler une loi qui vient d'être votée par le Parlement, ça s'appelle le référendum veto, et pour changer des articles de la Constitution par petits paquets. Voilà, j'ai fini ma question. Et sinon, quelles sont vos objections?
Bah, les réponses seront finalement assez rapides. Moi, j'ai une formation à la base, je suis prof de maths, hein, dans un établissement REP en banlieue parisienne. Donc j'ai une formation scientifique à la base. La question de tort ou de raison, vous voyez, moi je réfléchis beaucoup en termes de référentiel d'abord et de la manière d'où on parle. J'ai commencé comme ça pour me présenter d'ailleurs, et ça induit ensuite toujours la manière dont on formule la réponse. Donc le peuple a-t-il tort ou raison ou simplement décide-t-il? Ben oui, il décide. Il décide et on fait confiance ou on fait pas confiance à la souveraineté populaire. Ben nous autres Français, depuis Rousseau, on considère que c'est à travers celle-ci que la volonté populaire s'exprime. Donc pour moi, le peuple décide et je ne crains pas ces décisions. Par contre, je crois en la capacité et en la nécessité de forger des majorités culturelles et à créer un bon sens populaire, et en ça je me revendique totalement de Gramsci. Sur la deuxième partie de la question qui était tu veux bien me le redire juste en une seconde?
L'application du RIC dans la Constitution française, ouais. En trois points, législatif.
Non, mais c'est bon, c'est bon. Je l'ai en tête. Alors sur le RIC, ouais, merci. Sur le RIC, j'ai dit tout à l'heure l'attachement qui était le mien au mouvement des Gilets jaunes et l'implication que en tout cas le soutien que j'y ai apporté à la place qui était la mienne. Donc bien évidemment, moi je suis totalement favorable. Auric. J'ai dit également tout à l'heure deux choses. Je me revendique comme jacobin, non pas en tant que jacobin d'un point de pouvoir centralisé et centralisateur, mais parce que je considère que le mouvement jacobin au moment de la Grande Révolution est le mouvement qui a porté le plus loin la recherche entre l'exercice entre le pouvoir et l'exercice de la souveraineté. Donc moi je me revendique en tant que jacobin, et ce qu'avaient proposé à l'époque les différents mouvements jacobins, je l'ai dit, c'est deux aspects qui moi me semblent importants, c'est la capacité populaire de proposition législative. Donc ça on rejoint la question du RIC là-dedans. Ça doit pouvoir se faire par le RIC, mais ça doit pouvoir se faire aussi par d'autres biais. On peut inventer des choses sur cet aspect-là. Il y a des propositions qui ont été faites. Et le deuxième point, c'est effectivement le contrôle des lois. Alors bien évidemment, le contrôle des lois ne doit pas être fait de telle sorte que une loi sitôt votée puis peut être défaite. Mais le contrôle a posteriori de la loi par son évaluation puis décision finale éventuellement soumise à validation populaire doit être quelque chose qui doit pouvoir se faire. Je crois que ça rejoint un petit peu deux des considérations et notamment le référendum veto dont tu parlais il y a un instant. Voilà moi un peu quelles sont la manière dont j'appréhende des choses et je crois que ce sont là quand j'ai évoqué lors de cette émission le chaînon démocratique manquant qui permettrait de relier et retisser le lien entre le champ institutionnel et le champ populaire. Je crois qu'il y a là des outils qui ne sont pas juste utiles, mais qui sont totalement nécessaires.
Le Parlement suisse, lorsqu'il vote une loi, il y a un délai de 100 jours pour avant l'application de la loi minimum. Et si dans ces 100 jours, le peuple déclenche un référendum veto qui a suffisamment de signatures lors de la pétition, la loi est mise en suspens jusqu'au déclenchement du référendum. Et donc, au bout de... Alors, ça peut prendre 9 mois pour réunir le... non, pardon, je me mélange avec deux délais, pardon. En tout cas, un référendum est mené et la loi qui a été votée par le Parlement peut être annulée par le peuple si le peuple pense que le Parlement n'a pas été fidèle. Parce qu'on parle toujours de la fidélité des représentants. On sait que en France, les représentants français ne sont pas fidèles au peuple. On a vu en 2005 le peuple voter à 55% pour la proposition A. Et en 2008, les gens qui disent le représenter, les 700 et quelques représentants du Sénat et du Parlement, ont voté avec 20 points d'écart contre l'avis du peuple. Donc voilà, c'est juste pour mettre un bémol sur le terme démocratie représentative, c'est un aspect marketing et il est important que le peuple puisse avoir le dernier mot en dernier ressort, en tout cas en Suisse. Voilà, j'ai fini.
Bien. Alors François, peut-être est-ce que tu avais encore quelque chose à redire à ce que Christophe a dit ou
il y a non, des trois juste sur il n'a pas répondu, c'est sur le constituant. Celui qui toucherait la Constitution.
Ok.
Alors, oui. Juste sur un point, moi je pense qu'il y a la petite différence que j'ai avec le modèle suisse, c'est que je pense qu'il y a besoin que ça crée une instabilité. Si on peut immédiatement défaire la loi qui a été proposée, qui a été votée et adoptée par les représentants, moi je suis quand même pour un temps de latence, qui ne doit pas être un temps de latence trop long, mais pour ne pas intervenir sur une loi votée dans l'année ou sur 18 mois ou jusqu'à ce que les décrets d'application etc. soient publiés. Bon, voilà. Là, il y a des aspects à travailler avec les constitutionnalistes, mais je suis sur un modèle qui est peut-être où on ne peut pas défaire immédiatement le vote, parce que là, pour le coup, sinon on rentre
dans une confrontation. Le peuple ne décide pas.
Mais non, Christophe, c'est pas que le peuple ne décide pas.
Mais
fait.
Si. Mais non. Si, c'est les représentants qui décident.
Non, c'est pas les représentants qui décident, mais tu dois... Attends, 2 secondes. Tu dois quand même avoir un minimum de mécanisme pour que ce qui est voté, d'accord, donc ce qui émane quand même à la base d'une volonté populaire, ce qui est voté, prenne acte. Si tu reviens tout de suite dessus...
Mais en plus, ils ont 100 jours, je veux dire, ils ne sont pas posés des questions.
De toute façon, le débat, c'est pas la Suisse ce soir. Je sais d'accord, que c'est ton possible. Sujet. C'est possible, mais tu... C'est pas le débat ce soir, mais tu cites systématiquement le modèle suisse. Il y a des bons côtés, je suis d'accord. Ils ont un système avec un référendaire intéressant, mais pour autant, c'est dans le prisme suisse. Et ça, il faudra qu'on en discute pour une applicabilité en France, d'un point de vue constitutionnel. Mais en effet, moi, je rejoins François sur le fait que, et de toute façon, je te l'ai déjà dit, pareil quand j'expliquais.
Mais je viens de dire, oui, en 2005,
on a besoin de laisser la loi s'exécuter à minima.
Mais en 2005, ils nous ont trahis, les représentants. Donc, on ne peut pas dire
d'accord. Que... Vous êtes tous en dépression de 2005. C'est une réalité. Bon, c'est très bien. Maintenant, il faut faire le deuil de ça. Hein. Franchement, il faut
pas... Non. Surtout pas. Il faut toujours le remettre sur le tapis en permanence.
Tu peux le reprendre pour te donner le feu, pour être dans un module de pensée, mais systématiquement revenir là-dessus comme si du coup tout était...
Mais il y a eu 20 points d'écart, il n'y a pas eu 2 points d'écart, il y a eu 20 points d'écart. D'accord. Et on n'a pas changé les institutions depuis, ce sont les mêmes en fait.
Alors oui, non, mais certes, mais moi je milite pour les institutions, la modification des institutions parlementaires, tu le sais très bien, mais pour autant, je suis aussi réaliste par rapport au système qui existe, et on va y aller step by step en réfléchissant, si tu veux bien, je pense. Et je pense que oui, je pense que là, il y a la question de la légitimité aussi qui trotte. C'est important, ça abonde dans le débat, mais il faut un juste milieu, il faut un respect du droit et il faut essayer aussi de préserver l'intérêt général et l'équilibre du pays. Voilà. Bref, je me tais là-dessus. Excuse-moi, François, je t'ai coupé. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose?
Non, ou... non, mais j'avais été au bout.
Ouais. Voilà. C'est Christophe, c'était très animé là-dessus et c'est hyper intéressant en plus. Il a beaucoup de connaissances là-dessus. Philippe est revenu. Donc, est-ce que Philippe, vous avez une dernière observation ou un dernier échange à avoir avec François ou dites-nous?
Oui, c'est possible. Monsieur Coq, nous avons longuement ce soir débattu des principes institutionnels. Des élections, des RIC, des façons de pouvoir réussir à ce que notre démocratie puisse mieux fonctionner. Mais peut-être le malade n'est peut-être pas curable. On a vu, là, depuis maintenant quelques années, de plus en plus de mouvements. J'ai vu les Gilets jaunes. Là, avant-hier, au Salon de l'agriculture, le président de la République ne peut plus se déplacer désormais sans être accueilli par des crachats et des quolibets. Alors, bien entendu, les gens sont présentés comme des nervis d'extrême droite, parfois comme des black blocs d'extrême gauche, parfois, etc., le bloc bourgeois au milieu essaye bien entendu de diviser pour dire « Regardez, sont les vilains, sont les affreux, etc. » Mais à force de s'enfoncer dans la crise, puisque là, et plus personne ne gobe les bobards de Bruno Le Maire qui dit que nous allons aller vers un redressement, une réindustrialisation, etc. Bon, je crois que là maintenant, il faut... À part peut-être les derniers débiles qui regardent BFMVC, plus personne ne croit cela. Nous avons par contre Monsieur Attal qui dit qu'il va réduire les allocations chômage, le montant et la durée. Et quand le journaliste du JDD lui dit « mais ça va faire une crise sociale », oui et alors ? Bon. Donc nous sommes face à des gens qui sont en roue libre, qui veulent une bataille d'anéantissement par rapport au peuple qu'ils détestent, car ce sont des démophobes. Alors, je vous pose la question, Monsieur Coq, est-ce que vous ne pensez pas que dans cette situation économique et dans cette situation sociale, ça risque tout simplement de très mal se terminer par, tout simplement, une révolution? Merci beaucoup.
Eh bien, c'est le problème entre le souhaitable et l'état réel du terrain et du pays. Voilà, moi, si mon côté romantique me pousserait à aspirer à ce fait révolutionnaire dans un sens de renversement de l'ordre établi. Sauf que, je l'ai évoqué tout à l'heure, je crois qu'il y a des séquences dans la vie des sociétés, et je crois que la séquence destituante que nous avons connu sur une décennie et demie, ou en tout cas sur une décennie entre 2005 et 2015, 2017, 2018, cette séquence destituante aujourd'hui est beaucoup moins forte et beaucoup moins en capacité de faire émerger une solution qui permettrait de renverser complètement la table. Voilà. Je crois que beaucoup de choses sont passées par là, notamment le Covid, je l'ai dit tout à l'heure, et je crois que ça va être beaucoup plus compliqué de renverser les choses complètement. Je crois que les gens ont une forme d'aspiration à la sécurité pour eux et pour leurs proches, pour un environnement restreint autour de leur personne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une préoccupation de l'altérité et des formes de solidarité qui existent, mais ça veut dire qu'elles sont plus repliées sur eux-mêmes. Et donc, je crois que les possibilités de grands renversements, telles qu'on les a peut-être eues sous la main il y a encore 5 ou 6 ans, sont beaucoup plus complexes aujourd'hui à mettre en œuvre. Je crois qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus vis-à-vis du pouvoir politique dans une forme d'indifférence et dans une forme d'extériorité. Voilà. Parce qu'ils ont été mis au pas d'une certaine manière. Ils n'ont plus de levier. Il faut bien comprendre que la crise des corps intermédiaires, qui est l'objet de la décennie 2010, perdure aujourd'hui. Tous ceux qui ont cru que les syndicats étaient revenus aux affaires en ont été pour leur compte au moment du grand mouvement contre la réforme des retraites il y a quelques mois. Les stratégies syndicales ont été les mêmes en 2023 qu'elles avaient que celles qu'on avait connues au moment juste avant la crise du Covid, où déjà les syndicats avaient perdu sur la bataille des retraites. Ils n'ont pas été capables d'impulser quoi que ce soit. Ils ne sont plus en prise et en lien aujourd'hui avec la société. J'en veux pour preuve que si je fais l'analyse politique, que c'est un tournant politique ce qui s'est passé ce week-end avec la crise agricole et avec le salon de l'agriculture pour Monsieur Macron, alors même que les annonces de 10 milliards de coupes dans les budgets sociaux ont été faites il y a toujours une semaine, j'ai pas entendu depuis 24 heures et depuis 48 heures un seul dirigeant syndical, une seule organisation essayer de se saisir de la situation et de la conjoncture telle qu'elle est, de la temporalité que nous avons aujourd'hui pour essayer de mettre en branle le reste de la société et créer un rapport de force avec le pouvoir. Donc il n'y a pas les corps intermédiaires et on a expliqué tout à l'heure en quoi les mouvements populaires ont été mis sous l'été noir. C'était toute la question sur la dimension autoritaire du régime, dont il faut reconnaître que, qu'on le veuille ou non, elle porte ses fruits, elle brise un certain nombre d'aspirations et à se mettre en mouvement individuellement et collectivement. Donc, je voudrais qu'on puisse s'en sortir en mettant un grand coup de pied dans la fourmilière. Je dois dire que, en tant qu'observateur, aujourd'hui, je pense pas que c'est ce vers quoi l'on va le plus directement. Moi, au moment avant même les Gilets jaunes, je pensais que le fait constituant qu'il y avait cette volonté de passer à autre chose et de recréer un corpus commun. Et ce que j'avais créé à cette époque-là avec mes amis, c'était un groupe de réflexion, de travail, qui s'appelait justement les constituants, pour travailler sur ces différentes questions. Aujourd'hui, d'un point de vue personnel, je continue à penser que c'est toujours aussi nécessaire. Mais je pense que c'est quelque chose qui entre moins en résonance aujourd'hui dans la société. Et donc, s'il faut partir du réel, et il faut toujours partir du réel, il faut faire les choses un petit peu différemment et mener la bataille autrement. Je l'ai dit tout à l'heure, la bataille va se livrer non plus simplement en dehors du champ institutionnel. Il va falloir, et ça ne m'enchante pas moi, mais réinvestir un peu plus le champ institutionnel que ça a été fait ces dernières années, mais il va falloir le bousculer et créer de nouveaux espaces. Et pour tous ceux qui s'inscrivent dans le champ souverainiste aujourd'hui, c'est le défi de la période, c'est le défi de l'heure, parce que il n'était peut-être pas envisageable sous cette forme-là il y a quelques années. Il l'est aujourd'hui. On est en position délicate au regard des forces en présence pour le mener, mais l'avantage et la carte maîtresse que nous avons en main, c'est qu'on a la société et le peuple tout entier avec nous.
Quelle belle réponse, merci beaucoup. Alors, on me dit quand même, dommage qu'ils ne veuillent pas la révolution. N'est-ce pas?
Mais si, je la veux. Moi, je la veux. Voilà. Je la veux. Je dis juste que je pense que les conditions ne sont plus sont moins réunies aujourd'hui qu'il y a encore quelques années pour la mener à bien. Moi, je n'attends que ça et donnez-moi une barricade. Je rêve de grimper dessus.
Je vais vous faire une réponse au directeur de projet. Si on attend que tous les feux sont ouverts, le projet ne se réalise jamais. Donc à un moment donné ou à un autre, il faut prendre notre courage. Je sais que c'est dur et c'est très facile en ma position de dire ça, puisque finalement c'est vous qui êtes sur la sellette et moi je suis planqué dans ma salle à manger. mais à un moment donné ou à un autre, il faut le faire. Et je sais que malheureusement, les Français sont confrontés au principe, au syndrome de la grenouille qui cuit à feu doux et la température monte progressivement. Ils voient à chaque fois là, ce qu'ils risquent de quitter et malheureusement, comme ils vivent sous perfusion, ils se disent « oui, mais si je fais la révolution, comme je ne suis plus autonome pour assurer mon toit sur la maison, l'éducation de mes gosses et tout, etc., si jamais je fais la révolution, je vais perdre encore tout ça, je vais aller dans la rue ». Ils ont peur de ça, ils se disent donc finalement… ils choisissent le moins pire. Mais le moins pire, malheureusement, nous emmène vers l'enfer. Et c'est à un moment donné ou à un autre, il va falloir se poser les vraies questions. Et oui, des fois, quand la maison est trop mal foutue parce qu'on a fait des travaux d'architecture, on a mis des poutres de partout et tout, etc., des fois, il faut peut-être penser à la démolir pour pouvoir la reconstruire.
Bien. Alors, Souvrini, je ne prends plus de questions. Hein, je te le dis, donc tu peux baisser ta main. Moi, pour terminer ce space, d'abord, mille merci, vraiment, c'était fantastique. Encore une fois, on a beaucoup de chance. La semaine dernière, on avait Monsieur Kuzmanovic, aujourd'hui, on t'a toi. Ça répond vraiment à beaucoup d'interrogations qui sont dans les spaces et les gens ont besoin de savoir, puisque la minorité que nous sommes sur les réseaux sociaux peut porter un message. Donc c'est toujours un cercle vertueux. Donc merci d'avoir accepté et de nous avoir donné ton temps, ta réflexion, ton expérience. C'est extrêmement profitable. Ma question maintenant, c'est que vas-tu faire toi si l'on souhaite te suivre? Alors vous avez son site internet, vous avez son hâte hein, bien sûr sur X et je pense qu'il y a d'autres réseaux sociaux, mais que vas-tu faire toi? Est-ce que tu vas de nouveau être engagé politiquement? Est-ce que tu vas mener un combat? Si on a par exemple envie de te suivre ou envie de t'accompagner dans quelque chose que tu réaliserais toi pour justement sortir de la situation dans laquelle on est. T'es pas obligé de répondre. Hein.
Non, mais c'est effectivement toute la difficulté de la période. Moi, je vais essayer de poursuivre d'abord mon travail d'analyse sur les questions qui me tiennent à cœur, qui sont les questions d'évolution de la démocratie, et notamment à l'échelon européen, mais également à l'échelon français. J'ai écrit un petit bouquin en 2018 qui s'appelle « Alerte à la souveraineté européenne, la chimère de Macron contre la souveraineté populaire ». Ce bouquin-là, analyser la séquence des blocages institutionnels, des grandes coalitions et l'arrivée et l'entrée dans la démocratie minoritaire. J'ai prolongé ça dans un bouquin qui s'appelait « L'impératif démocratique ». Et aujourd'hui, je l'ai dit ce soir, je pense qu'on arrive au bout déjà de cette séquence de démocratie minoritaire. C'est-à-dire que les séquences sont de plus en plus courtes. Le bipartisme a duré 40 ans, les grandes coalitions ont duré moins d'une dizaine d'années, la démocratie minoritaire dure environ 5 ans. Bon, voilà. Donc j'essaie d'avoir un coup d'avance, ou en tout cas de diagnostiquer pour notre pays ce que va être la suite en regardant ce qui se passe dans les autres pays. Donc j'aimerais essayer de retrouver un petit peu de force pour me mettre à l'ouvrage et proposer mes analyses par écrit là-dessus. Et puis j'essaie d'intervenir quand l'occasion m'en est donnée, et je vous remercie vraiment à tous pour ce soir, pour la qualité de l'échange, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, mais moi ça me nourrit, ça me fait réfléchir et ça m'amène un petit peu plus loin aussi dans ma réflexion, de pouvoir parler avec vous tous, et donc d'essayer de faire vivre ces idées-là. J'ai dit tout à l'heure qu'il fallait essayer d'aller dans les médias dominants aussi. Il faut continuer à le faire sur les réseaux sociaux. Il faut aller, si on peut, quand on arrive à ouvrir des portes. Moi, j'avais réussi à en ouvrir quelques-unes. Le monde médiatique et le monde politique étant ce qu'il est, des consignes ont été passées pour me les refermer, mais ça, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, on verra comment ça se passera à l'avenir. Je vais essayer de faire vivre les idées. Et pour ce qui est de l'engagement, par contre, dans une forme partisane ou non, Fontaine, je ne dirais pas que je ne boirais plus de tonneau, mais il faudra que j'arrive à trouver la clé. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de martingale. Pour l'instant, je continue à cogiter avec quelques amis, et quand j'aurai une idée de ce qui convient faire dans le champ politique, je ferai comme toujours, je m'avancerai pour la proposer en assumant de dire que je pense que c'est ça qu'il faut faire, mais aujourd'hui j'ai pas l'issue, et donc à part faire comme trop de gens, c'est-à-dire parler pour brasser de l'air, je pourrais pas faire grand chose de plus. Donc pour ce qui est de l'investissement et de l'engagement dans le champ partisan, pour l'instant je reste en retrait et j'espère être utile. En tout cas, je reste disponible pour ceux qui veulent continuer à travailler sur le fond ces questions, pour essayer de trouver une clé pour ouvrir la porte du coffre-fort.
Bravo, super, merci beaucoup. Et bien voilà, bah merci beaucoup, vraiment c'était hyper enrichissant, en tout cas pour moi, j'espère aussi pour les autres, mais je pense que oui, vu les messages que j'ai en ligne, ça me fait aussi beaucoup réfléchir. De toute façon, moi je continuerai à suivre tes travaux comme c'était déjà le cas avant. Voilà, peut-être de nouveau un jour en space pour continuer à travailler. Donc n'hésitez pas à aller voir son profil, et puis vu sa grande gentillesse et sa disponibilité, vous qui dites très souvent on ne peut pas les approcher, ils ne nous répondent pas, vous avez la preuve inverse. Quant à nous, eh bien, nous allons clôturer ce space désormais, permettre à notre invité de se reposer après 2h30, et on va se retrouver la semaine prochaine avec Monsieur Murer pour de nouveau répondre à des questions cibles, et vous aurez les informations dans la semaine. Mille merci François, vraiment, à très bientôt.
Merci à vous.
Et n'arrête pas. Voilà. Au revoir à tous, bonne soirée.